et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Espagne, même si le terme de Grand Prix est peut-être un peu galvaudé, car il faut bien dire que nous avons eu l'impression de voir un épisode de Derrick qui ne finirait jamais. Nous étions proches du désespoir, mais pourtant, nous avons pris notre courage à deux mains pour vous proposer une vraie émission du SAV, et non pas un simple flash de 15 minutes, qui aurait pu certainement suffire pour ce week-end. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, bonjour Dino.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour Dino. Et alors par contre, j'ai envie de dire, pas bonjour Enzo. J'ai quand même envie de préciser, attention, Enzo ne s'est pas enfui en courant en sachant que nous enregistrerions une émission sur le Grand Prix d'Espagne. Non. Enzo a été...
Ouais, attends. Tu veux dire qu'Enzo n'est pas là?
Non. Mais tu ne le vois
je
pas?
Je quitte dans les médias cette émission.
Tu ne le vois pas, là? Tu ne vois pas autour de notre table qu'il n'y a que nous deux?
Ah oui, c'est vrai. Mais je me disais... Je pensais qu'il était parti aux toilettes.
Et non. Car Enzo a succombé à la seule chose qui peut lui faire détourner de la F1. Nous le savons tous. Ce que certains appellent un sport. Oui. Enzo a fait son choix. Il a choisi le golf. Malgré tout, il faut signaler son courage. Puisque dimanche, il avait une compète de golf. Il n'a donc pas vu en direct le Grand Prix.
C'est vrai.
Eh bien, malgré tout, il a pris le courage de regarder le Grand Prix d'Espagne en différé. Vous vous rendez compte? Alors, le Grand Prix d'Espagne!
Alors qu'il savait que c'était une course de merde, mais...
Oui. Juste pour nous donner ses impressions, car même s'il n'est pas là, il est quand même un peu là quand même.
Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que généralement pour Enzo, c'est vrai qu'on essaye, on a des plannings, on est amateur, donc on a des plannings un peu particuliers, on essaye toujours de s'arranger pour qu'on soit tous les trois là. Et là, il se trouve que la proximité entre Barcelone et Monaco et le fait que Enzo ait des activités plus importantes à faire que le SAV cette semaine fait qu'il n'est pas là, mais qu'il a quand même tenu à participer pour l'émission. Donc je pense que en son nom, on peut s'excuser de sa part et puis en même temps dire vous avez qu'à faire avec.
Voilà. Donc on va quand même faire notre émission, même à deux, mais on va la faire.
Ouais, ça sera moins bien, mais bon. Ah voilà, je suis pas motivé.
Eh bien évidemment, vous savez par quoi on commence? Par une rubrique que Iceman Air apprécie. Car je l'ai noté dans sa contribution. Iceman Air, dont son pseudonyme indique qu'il a d'ailleurs très bon goût, ça nous le savons tous, hein, apprécie l'éphéméride.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est un jeu de mots, c'est pas drôle en fait.
Attention Dino, tu es tout seul cette fois-ci. Hein.
Ah, il va falloir que je gère là.
Tu vas devoir gérer.
Ah ouais.
Donc, rappelons-nous, nous étions donc le 9 mai.
Jour de l'Europe.
Attends, wow.
Je vais niquer sa rubrique. Ah.
Le 9 mai déjà, c'est la Saint-Pacôme. Les événements du 9 mai. Et attention Yannick, je vais déjà te le dire, c'est une spéciale arrivée au pouvoir. C'est la thématique des faits. Donc on va commencer par le 9 mai 1949. C'est un homme. Ça n'est pas un président.
C'est un pouvoir sportif?
Ce n'est pas un pouvoir sportif.
C'est un pouvoir politique?
C'est un pouvoir politique.
C'est en France?
C'est pas très loin.
Belgique? C'est un roi?
Ce n'est pas un roi.
Une reine?
Ce n'est pas une reine.
Un prince? Prince Grimaldi?
Oui, et c'était lequel?
Je sais plus comment il s'appelait, le père de... L'autre, là...
Et pourtant, franchement, s'appelait Régnier.
Ah oui, c'est... Ah, Régnier, ouais.
Oui. Et alors, tu connais tous les titres d'un prince de Monaco, hein? Outre tous les titres financiers qu'il y a à Monaco. Attention, parce que quand t'es prince de Monaco, t'es aussi duc de Valentinois, Marquis des Beaux, comte de Carlades, baron de Calvinet, baron Dubuis, seigneur de Saint-Rémy, sire de Matignon, comte de Torigny, baron de Saint-Lô, baron de Lutumière, baron de Amby, duc de Mazarin-Grimaldi, duc de Mayenne, prince de Château-Porcien, et tu sais quoi, il y en a encore d'autres, comte de Ferret, comte de Belfort, comte de Tant, comte de Rosemont, baron d'Alkirch, seigneur d'Isnheim et site de marché. Tout ça pour le prince de Monaco.
Eh ben, elle vit passionnante.
Carrément. Deuxième personne à avoir accédé au pouvoir, c'était en 1994.
94, Mandela.
Bravo.
Oh, ouais, oh. Bah, tout le monde sait ça, 9 mai 94, Mandela accède au pouvoir.
Toi, toi c'est parce que t'es allé voir Invictus.
Oui, en partie, c'est vrai.
D'ailleurs, si tu n'avais pas trouvé, l'indice c'était Morgan Freeman. Je donne l'indice, quoi, voilà. Ça t'aurait aidé. Les naissances du 9 mai. Le 9 mai 1968, naissait une sportive.
Championne du monde, championne olympique.
Les deux.
Française.
Française.
Marie-Jo.
Ah mais non, t'es super en forme aujourd'hui.
Ah, je tremble à l'aise. Pourtant, je te jure, j'ai pas révisé, j'ai pas été sur Wikipédia, j'ai pas eu le temps.
Championne olympique du 400 mètres en 92 et 96. Championne olympique du 200 mètres. 3 médailles d'or olympiques pour un sportif français, c'est très rare. Championne du monde du 400 mètres. Oh. Championne d'Europe.
Ça se trouve, Enzo, il les a. Hein.
Bah non, parce que le golf est pas encore au jeu. Mais il les aura bientôt.
Ça, c'est une injustice.
Mais il les aura bientôt. Donc, les fêtes du jour. Et en effet, ah, pour l'Union Européenne, c'est la journée de l'Europe.
Voilà.
Et ça célèbre quoi? Pourquoi c'est le 9 mai?
Parce que c'est la signature du traité de Rome en 1954. 54, ouais.
Non, c'est la déclaration Schuman en 1950.
Ouais, mais arrête de te la péter, c'est bon.
Ouais, mais t'avais qu'à pas me griller le truc, tu vois.
Bon, d'accord, ça y est.
Voilà. En fait, c'est en 1950 que Schuman a proposé l'idée de se mettre ensemble entre pays européens. À l'époque, c'était pour le charbon et l'acier seulement.
Et sais-tu où est enterré Schuman?
À Strasbourg?
Non, à Annelle-sur-Mer.
C'est tout ça parce qu'il y va en classe de mer.
Je suis avec mes élèves, j'ai découvert ça.
Et aussi, le 9 mai, il faut noter que pour les pays de l'ex-bloc soviétique, bah en fait, le 9 mai, c'est le 8 mai. Mais pour eux, c'est le 9.
Bah oui, à cause du déclin. Bah non, même pas.
C'est juste une question en fait de moment de signature.
Ah d'accord.
C'est que voilà, l'URSS, ils ont signé l'armistice le 9 mai. Donc pour eux, c'est le 9. Et donc en F1 ce jour-là.
Alors là, je suis foutu, ça y est, là c'est mort.
Attention. Nous allons remonter au 9 mai 1982.
Pff, je sais même pas ce qu'il y avait comme pilote à ce moment-là. Enzo, au secours.
9 mai 1982, c'était le Grand Prix de Belgique. Qui avait donc lieu à...
Pas.
Non.
Zolder.
À Zolder. T'es tombé dans le piège. Non, Spa, en fait, est revenu l'année d'après. Dans la conspiration qu'on lui connaît. Et il y aura une dernière course à Zolder en 84.
Oui.
Avant que ça revienne définitivement à Spa. Donc, Grand Prix de Belgique. À Zolder.
Oui.
Alors,
oui.
Qui c'est qui a gagné d'après toi? Je vais même te donner un indice. C'est un pilote McLaren.
McLaren, il n'y avait pas Prost encore.
Non, c'est intéressant d'ailleurs, parce que justement...
Il y avait Lauda.
C'est pas Lauda.
Ah, c'est l'autre alors.
C'est l'autre. C'est un pilote qui a fait une carrière intéressante en F1, mais c'est pas le premier pilote auquel on pense en fait. Tu vois, c'est une sorte de Nick Hedfeld.
Putain. Rottiman? Non, Rottiman, n'importe quoi. Je vais sortir des noms de mecs de NASCAR. Rottiman, Fittipaldi, c'était plus ça.
Un Britannique.
Un Britannique. Merde. Ansell?
Non.
Damon Hill.
82.
Watson? Oh non,
c'est John Watson. Deuxième.
Ah, je connais quand même son nom. Hein.
Deuxième sur Williams Ford. On est en 82.
Sur Williams Ford en 82, bah c'est pas Rosberg.
Bah si c'est Rosberg.
Oui, non mais c'est pas Rosberg par hasard?
Ah bah oui, il faut mettre le ton aussi. Et alors, en troisième, je te le donne parce que celui-là, sinon, tu vas mettre 2 heures pour le trouver. Alors, il s'est classé finalement troisième. C'est Eddie Cheever sur l'IGE.
Oh, je connais ça, oh, c'est bon.
Oui, mais tu l'aurais peut-être pas trop. T'as déjà eu du mal avec Watson, alors.
Ouais, mais c'est Watson.
Mais Cheever n'a pas fini troisième de la course.
Il a fini quatrième, il a été reclassé.
Voilà.
Voilà.
Le vrai troisième, tu l'as déjà cité en plus.
Mansell.
Non.
Prost.
L'autre chez McLaren.
Loda.
Voilà. Mais il a été déplacé pour poids non conforme.
Loda.
Oui. Bah oui, ça arrive. Et donc, la question. The question. C'est que les Ferrari n'ont pas roulé ce jour-là. Pourquoi?
Ah bah attends, on va faire un truc. Est-ce que j'ai le droit à un joker? Est-ce que j'ai le droit à l'appel à un ami?
Ouais, vas-y, ouais.
Alors, on va faire l'appel à un ami.
Crois-moi, là, il y a des gens qui nous écoutent. Ils sont en train de se dire, non, c'est pas possible qu'ils sachent pas pourquoi.
C'est Ferrari, il faut que je trouve quelqu'un dans mes amis, qui est fan de Ferrari, qui s'y connaît bien en histoire. Ah, il y a peut-être lui. Je vais essayer. Je suis pas sûr, hein. On va essayer de l'avoir.
Pourquoi le 9 mai 1982, les Ferrari n'ont pas roulé?
On va essayer, on va voir. Allô?
Ah.
Allô, Enzo?
Oui.
C'est Yannick du SAV de la F1. Oui, je t'appelle parce que je suis chez Jean-Pierre Foucault là et il me pose une question et je suis un peu dans la merde là, parce que c'est une question un peu dure, tu vois, c'est une question genre historique et compagnie.
C'est la question à 1 million.
C'est la question à 1 million, tu vois. Bon, j'ai plus de joker, donc j'avais que toi, donc j'espère que tu vas me sauver les miches, hein. Alors la question de Jean-Pierre, c'est en 82,
le 9 mai.
Le 9 mai 82,
au Grand Prix de Belgique.
On en est qu'à l'éphéméride, hein.
Au Grand Prix de Belgique.
Ah oui, alors 9 mai 82 au Grand Prix de Belgique, et il m'a peut-être donné la réponse. Au Grand Prix de Belgique, les Ferrari n'ont pas roulé, pourquoi? Villeneuve s'était tué, c'est ça j'ai dit?
Bah oui.
Yes, yes, ouais, merci Enzo, je te donnerai 10 euros. Voilà. Bon, alors je sais pas si on t'entend, mais en tout cas je te remercie Enzo. À bientôt.
Bravo à Enzo.
Shiji te dit bravo.
Ok.
Allez, ciao. C'est la mort de Gilles Villeneuve et c'est mon dernier mot.
Et oui, car finalement la course c'est assez secondaire puisque malheureusement la date qu'il faut retenir c'est pas le 9 mais bien le 8.
Oui, les qualifs.
Lors des qualifs, voilà, que Gilles Villeneuve nous a quitté ce jour-là. Et donc bien.
J'étais sûr que c'était plutôt en fin de saison, tu vois.
Voilà. Et donc bien évidemment, ils ont pas fait rouler la deuxième voiture, ce qui est tout à fait logique.
Ouais.
Voilà. C'est la fin de l'éphéméride. Sur cette note triste quand même.
Ouais. Mmh. Oh merde, ça va nous plomber pour la suite.
Ouais. Tant t'as pas été foutu de la trouver tout seul, quoi.
Ouais, mais je faisais genre pour avoir un joker et tout.
Allez, après l'éphéméride, c'est le JT. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT du SAV. Nous sommes le 12 mai 2010 et tout de suite retrouvons Dino en direct de Barcelone pour son analyse d'après Grand Prix.
Ouais, salut.
Ah, apparemment tu n'as pas apprécié ton week-end, Dino.
Non, c'est juste que j'en ai marre d'être bloqué ici depuis 3 semaines. C'est le tête volcan.
Oui, le nuage du volcan fait de nouveau parler de lui, mais il y a quand même eu une certaine alchimie entre-temps.
Ouais, mais non, enfin, c'est juste que j'ai raté l'avion. Saloperie de Stewart, d'ailleurs. Si je l'attrape, celui-là, je lui marre sa gueule, mais un truc grave, quoi. Enfin, bref, venons-en à la F1.
Ok. Donc, Dino, ton analyse.
Comme d'habitude ici, quoi, Barcelone, on a vu des F1. Des F1 qui... elles roulaient, quoi.
Est-ce que tu pourrais être plus explicite, s'il te plaît?
Elles faisaient des tours. Senna, il faisait pas de tours. D'ailleurs, là, j'y pense, là. Heureusement qu'on repère le circuit le jeudi à pied, parce que sinon, le pauvre, il verrait que le paddock.
En effet. Sinon, côté évolution, le retour en Europe est toujours l'occasion de grosses mises à jour sur les monoplaces.
Ah, c'est des essais, quoi. Tu sais, c'est pareil lors de toutes les séances d'essais privés, hein. Un nouvel aileron par-ci, un nouvel aileron par-là. Et des fois, on essaye d'autres ailerons.
Oui, enfin, la Mercedes avait quand même un capot moteur assez révolutionnaire.
Non, mais ça, ils vont pas le garder pour la course. Hein. Là, ils l'ont mis juste parce que c'était des essais privés, quoi. Mais bon, ils ont quand même fait des choses bien, hein, faut dire. J'ai pas l'air super vitaminé, là, mais ils ont fait des choses bien. Ils ont fait une petite simulation de qualification samedi, puis après, ils ont fait dimanche une petite simulation de course. Bon, il y a des pépins de fiabilité encore, mais bon, c'est pas
trop mal. Non, mais Dino.
Non, mais me coupe pas, Shinji. C'est déjà suffisamment dur de trouver quelque chose à dire sur ces essais, alors.
Justement, ce n'était pas.
Shinji, Shinji, si tu m'interromps tout le temps, on va jamais finir, et je serai jamais rentré chez moi. C'est déjà assez chiant comme ça d'avoir à faire du stop à cause de ce volcan de mes deux. Alors, et puis justement, sur l'autoroute, il y a personne qui s'arrête. Ah, regarde-moi ces pecnos qui suivent à la queue leu leu, on se croirait sur le circuit. Oh merde, qu'est-ce que je suis con, je suis encore sur le circuit. Ça me saoule, mais ça me saoule.
Bon, d'accord, excuse-moi. Donc, tu disais ces essais.
Bah, rien, tu connais les écuries, elles sont super secrètes. Non, enfin, tout ce que je peux te dire, c'est que Weber, il avait l'air super heureux que les essais se terminent dimanche.
Ça, c'est normal, parce qu'il a gagné la course. Ce n'était pas des essais que t'as vu, mais un grand prix.
Non, arrête. C'est vrai, Non, tu déconnes.
Non, je te jure, c'était le Grand Prix d'Espagne. Bon, c'était chiant, mais c'était le Grand Prix d'Espagne, quoi.
Attends, c'est pas possible, y a pas eu de dépassement. Quoique, oui, à un moment donné, Ça c'était pendant un changement de pneus, donc ouais, y a pas eu de dépassement.
Ouais, bah, c'était le Grand Prix d'Espagne. C'était chiant cette année, c'était chiant l'an dernier. Tiens, il y a 2 ans aussi c'était chiant, et je parie que si Enzo était là, il nous dirait qu'il y a 30 ans aussi c'était chiant.
Bon bah, je rentre alors.
Tu pourrais faire un passage par Monaco?
Quoi? Il y a des essais là-bas?
Non, il y a un Grand Prix, Dino. Même si... Non. Rentre à la maison directement, ça vaut mieux. Allez, tout de suite, on passe aux infos en vrac.
Recyclage. D'après une étude d'opinion réalisée par la société allemande Promit, 2 Allemands sur 3 jugeraient le retour de Michael Schumacher comme un échec. Il n'aura donc fallu que quelques mois pour que l'opinion publique allemande, bien aidée par la presse d'Outre-Rhin, retourne sa veste après s'être montrée plus qu'enthousiaste en décembre dernier. Pourtant, le septuple champion du monde allemand conserve le soutien de son équipe, puisque pour Barcelone, Mercedes a préparé une évolution majeure de sa monoplace qui s'est montrée plus à même de correspondre aux critères de qualité de Michael Schumacher. Mais Ross Brawn a confessé qu'il ne s'agissait aucunement d'une nouvelle voiture, puisque ce châssis a déjà été utilisé à Barcelone cet hiver. Une affirmation contestée par nombre d'observateurs qui doutent sincèrement que l'écurie allemande soit du genre à ressortir des vieux machins plus utilisés.
Innovation. Le nouveau directeur technique de Sauber et transfuge de Force India, James Kay, a reçu son ordre de mission. Retrouver le niveau qui était celui de l'écurie en 2008, alors qu'il s'agissait encore de BMW, à savoir la 3e place. Aucune échéance n'a cependant été fixée, mais d'après les performances entrevues du côté de l'écurie suisse depuis le début de la saison, on ne peut s'empêcher de penser que le moyen le plus simple pour James Kay de remplir ses objectifs serait d'inventer la machine à remonter le temps.
Capitalisme. De retour en Espagne, Fernando Alonso en a profité pour retrouver sa famille, prendre des cours de flamenco, manger une paella et assurer ses pouces. En effet, la banque Santander, sponsor de Ferrari, a assuré la bagatelle de 5 millions de pièces, les pouces du taureau des Asturies, double champion du monde en 2005 et 2006. Une opération, convenons-en, avant tout marketing, qui aura cependant donné des idées à Felipe Massa, le coéquipier d'Espagnol, qui fait l'objet de rumeurs persistantes, l'envoyant loin de chez Ferrari en 2011, après un début de saison en demi-teinte. Le petit Brésilien chercherait ainsi à assurer sa voiture pour cette saison et la saison prochaine. Santander a déjà effectué une première estimation et en déduit qu'avec Alonso comme coéquipier, les risques étaient bien trop importants pour qu'il puisse bénéficier d'une telle assurance.
Compétition. Grâce aux évolutions apportées sur sa Mercedes, Michael Schumacher a retrouvé des couleurs en dominant son coéquipier pour la première fois de la saison sur l'ensemble d'un week-end. Cependant, alors qu'il débarque dans la principauté, le Kaiser ne s'enflamme pas et confie, je cite, « Nous devons faire attention cette fois de ne pas espérer trop de choses, comme on l'a vu à Barcelone. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. » En effet, les ingénieurs de Mercedes bénéficient d'une certaine marge de développement puisqu'ils n'ont pas encore essayé de piquer le casque de Nico Rosberg ou encore d'oublier de monter des pneus sur sa monoplace afin de valoriser la performance de l'ancien pilote Ferrari.
Marketing, le débat sur la publicité pour le tabac a fait un retour tonitruant dans le paddock de la F1 puisque certains opposants à ce genre de publicité se sont scandalisés en découvrant, après plus de 3 ans, que Ferrari faisait de la publicité subliminale pour Marlboro en arborant son désormais célèbre code barre. La Scuderia, après avoir vainement tenté de se défendre, a décidé de supprimer la partie incriminée de sa livrée, la remplaçant par un magnifique rectangle blanc, évitant ainsi la mobilisation des associations luttant contre la publicité subliminale pour les piles, le café, le sucre, le lait, le camembert, les carottes, les navets, du poulet, des noix de pécan ou encore pour un cahier à petits carreaux Grand Spira. Mais en réalité, c'est une autre raison qui a motivé cette décision de Ferrari. En effet, après avoir reçu l'aval de la FIA pour les modifier, la Scuderia espère simplement que ses moteurs arrêteront de fumer. À noter également que c'est un progrès majeur dans la réduction du budget de la Scuderia qui a mis fin au développement de son lecteur de code barre géant.
Sécurité routière. À la veille du Grand Prix de Monaco et après un Grand Prix d'Espagne où les nouvelles écuries se sont imposées plus que jamais comme des chicanes mobiles, les pilotes manifestent leur inquiétude quant à la sécurité lors de la course monégasque. Lewis Hamilton, qui a bien failli voir sa course ruinée à cause d'une Virgin à Barcelone, a manifesté publiquement son inquiétude en affirmant que ce pourrait être, je cite, « un désastre ». Cependant, le Britannique semble oublier qu'il s'est imposé comme l'un des meilleurs pilotes en ville, que ce soit à Monaco, Singapour ou plus récemment à Melbourne.
C'est ainsi que nous allons conclure cette nouvelle édition de JT du SAV. Nous vous invitons bien évidemment à rester sur notre antenne, à suivre la question actu qui passe inaperçue.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue.
Youhou ! L'actu ! Où es-tu ?
Alors, Shinji, tu vas être tout seul, donc on va faire une question actu à ta portée.
Ouais.
Bon, tu connais le principe, hein, pas de Google, oui. Pas de Yahoo.
De toute façon, ça sert jamais pour ton truc.
Oui, c'est vrai. Alors, petite question toute simple. J'aimerais savoir quel record s'apprête à battre la Scuderia Ferrari.
Un record. Donc, c'est un record qu'elle n'a pas encore.
C'est un record qu'elle n'a pas encore, mais qu'elle aura prochainement. Enfin, d'ici la fin d'année.
Des records que la Ferrari n'a pas.
Il n'en reste pas beaucoup.
Il n'en reste pas beaucoup. C'est un record de durée ?
Non.
C'est un anniversaire ?
Non.
Donc c'est quelque chose qui augmente avec le temps, quand même.
Non, c'est pas quelque chose qui augmente. C'est une prestation qu'ils vont réaliser et qui va rentrer théoriquement dans le Guinness Book des records.
Une prestation. Le truc, c'est qu'il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais c'est plein de choses où Ferrari a déjà le record. C'est lié au fait qu'il participe aux courses.
C'est pas un record qui se fera sur la piste ou lors d'un
grand prix.
D'accord. Alors, je peux vous dire que là, je vois Shinji en caméra.
Ah oui, c'est vrai.
Et il cherche. Est-ce que tu veux un petit indice de la mort qui tue ?
Je veux bien un indice de la mort qui tue.
Alors, je vais te donner la première version de la question telle que je l'ai écrite 10 minutes avant qu'on enregistre parce que j'avais un petit peu torché ma question actuelle.
Ouais.
Ma question était, qu'est-ce qui est rouge, qui monte et qui descend et qui fait peur à voir? C'est la question actuelle qui tue.
Un ascenseur Ferrari très moche.
C'est pas un ascenseur.
Ah. Donc une voiture Ferrari très moche, mais ça n'existe pas ça.
Eh ben, on pensait que ça n'existait pas, mais on a vu ce week-end que ça pouvait exister. Ouais, qu'il faut encore admettre la définition de voiture.
Oh oui! Ils l'ont passé au F1 à la une, là. C'est un truc qu'ils ont inauguré, là.
Oui. Je vois à sa tête qu'il a reconnu. Donc, il s'agit du manège Ferrari.
Un manège Ferrari. Ah. Oui, non, d'ailleurs, quand tu dis que tu me vois et tout ça, j'allais l'expliquer, mais tu m'as coupé, oui. J'ai acheté une webcam, donc ça paraît idiot comme ça, mais Dino aussi a une webcam. Donc on enregistre l'émission et pour une fois, on se voit.
Voilà, c'est une première. Donc oui, il s'agit du fameux manège. Hein. Si tu te rappelles, l'an dernier, on avait fait une question sur le Ferrari World Park à Abu Dhabi. Et donc ils ont présenté à Barcelone, ils ont présenté la voiture.
D'accord.
Qui servira dans le manège du Ferrari World.
Ah, c'est pas un truc qui va bouger dans le monde, non, c'est pour le Ferrari World.
C'est pour le Ferrari World, pour cette attraction qui s'appellera Formula Rossa. Ça pète. Hein.
Ça pète.
Alors, c'est un record parce que ça. Alors, c'est ce qu'ils disent eux. Hein. J'ai pas vérifié l'actu. Enfin, j'ai pas fait mon boulot, quoi. Ça devrait être le grand 8 le plus rapide du monde.
Ouais.
Avec, accroche-toi, une vitesse de pointe de 240 km/h sur un circuit de 2 km 07 qui monte et qui descend. Normal, c'est des montagnes russes. Enfin, des montagnes Emirati.
Ouais.
Ça ira de 0,5 m à 52 m. Donc, ça te dit la propulsion, quoi.
Ouais, quand même.
Le circuit, il a un virage le plus serré à 70 degrés. Quand même pas de la merde.
Ah, oh, ouais.
Et on va prendre 1,7 G.
Ouh, oui, quand même.
Eh, quand même, hein. Eh, oh.
Et bon bébé, hein. Ce sont quand même les véhicules Ferrari qui risquent d'accueillir le plus de monde aussi de l'histoire.
Ah bah oui.
Parce que c'est du tourisme de masse. Hein.
Voilà. Donc bon, il faudra quand même pour propulser tout ça 20 800 chevaux.
Oui, quand même.
Et alors quand on demande, parce que c'est vrai que pour tous ceux qui ont regardé F1 la une, bon, moi j'avais vu avant dans des photos et quelques articles dessus, c'est quand même particulièrement laid. Hein. Imaginez une Ferrari 3 fois trop large, 6 fois trop longue, avec 8 sièges à l'intérieur. C'est laid. Hein. À côté, les Minardi triplace ou biplace sont bien meilleurs. Et ils osent quand même, sur le site de Ferrari, attention, ils font la pub, hein. Ils osent dire que ça célèbre la vitesse.
Bon, oui.
D'accord.
Oui.
Ça célèbre l'innovation technique. Bon, pourquoi pas.
Ouais, pourquoi.
Et ça célèbre l'aérodynamique.
Non.
Et là, je dis...
Non.
Quand tu vois la gueule du truc, ça célèbre pas l'aérodynamique. C'est pas possible.
C'est un truc qui a un CX22, quoi.
Oui, c'est à peu près ça. Je dis, c'est un CX22. Tout à fait. Donc là, on a coupé des trucs au montage. Vous chercherez ce que c'est, hein. La question pour la semaine prochaine, la CX22, c'est quoi? C'est vrai que c'est des sièges, c'est une F1 de côté, avec des sièges qui font à peu près 3 mètres de haut. Alors, ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'il précise que vous aurez une petite salle d'embarquement, climatisée à température et tout, pour être bien au frais, être prêt et tout. Et que, on vous fournira, et alors, attention, c'est le luxe, hein. On n'est pas à la foire Saint-Romain de Rouen.
Ah bah non.
On est au Ferrari World. Donc, on va offrir aux gens des lunettes de protection.
Non.
Mais il ne précise pas si on va leur offrir aussi des protections dentaires pour éviter de gober des mouches, ça serait chouette. Parce qu'en fait, avec la vitesse et la puissance du truc, bah, il pourrait y avoir des trucs dans les yeux, quoi. Donc voilà, si vous voulez voir ce que c'est, vous cherchez un Formula Rossa sur internet, ça va assez vite, vous allez vite tomber dessus. Et sinon, allez à Abu Dhabi, hein,
oui.
Vous avez du pot de faire. On vous ferait un tour. Alors 2,7 km à 240 km/h de moyenne, bon, vous avez fait le tour en 40 secondes à peine. Hein. Voilà. C'était tout pour la question actu.
C'était tout. Ouh.
Je remarque que t'as pas utilisé de joker.
Non, mais j'ai eu du mal quand même. Encore, hein, c'est parce que c'est pas ça F1 la une, hein, parce que sinon je crois que j'aurais pas trouvé.
Je t'avouerai que quand c'est passé à F1 la une, je me suis dit, eh merde, j'ai chié. Pour une fois que j'en ai une bonne.
On va passer au plus dur. On va passer à la course.
On va en chier.
Alors, commençons d'abord par ce qui a été intéressant. Enfin, même pas d'ailleurs. La qualif.
Je me rappelle même plus. Tellement j'étais assommé par la course.
Donc.
Oui, c'était intéressant parce qu'il y avait savoir Vettel ou Weber.
Voilà. Donc, allez, pole position de Weber. Troisième pole position pour Mark Weber. Dixième pole position pour Red Bull. 165e pour Renault. À une moyenne de 209,488 km/h. Mais qui peut battre les Red Bull cette année en qualif?
Comme disaient les Jean-Louis Moncey, je crois que le principal adversaire de Red Bull, c'est Red Bull lui-même.
Ouais.
Il y a un os dans la canette. Non, qui peut battre Red Bull, oui, c'est vrai qu'en dehors d'eux-mêmes, voilà, maintenant, faut voir aussi, c'est la fiabilité, ça reste toujours la question au niveau de Red Bull, et puis faut voir aussi, derrière, la capacité de développement qu'ont Ferrari et McLaren, qui restent techniquement les plus impressionnants et qui peut peut-être, à terme, revenir sur Red Bull, mais Red Bull, sur ce qu'ils ont montré, en tout cas, à Barcelone, ils ont mis un coup d'enclume sur la nuque de tout le plateau.
Alors, la place du con. Alors, faut noter que Petrov est 19e officiellement, mais parce qu'il a été déclassé.
Oui, voilà.
Et que, en plus, Kovalainen n'a pas pris le départ, donc ça décale tout. Il y a eu des pénalités et tout. Non, la vraie place du con cette semaine, c'est Barrichello. 17e, comme un grand. Une seconde et demie devant Trulli, bien évidemment.
Non, mais Barrichello, il était soumis à un bombardement de cailloux.
Un bombardement de cailloux?
Ouais. Et apparemment, il paraît que sa voiture était criblée d'impact, même son casque était criblé d'impact de cailloux.
Ah, il a de la chance que c'était pas des blocs de béton, parce que sinon ça aurait fait encore plus mal à la carrosserie.
Non, mais apparemment, ça a été un gros problème ce week-end. C'est des gros gravillons qui se trouvaient sur la piste et...
Mais je trouve qu'il y avait beaucoup d'éléments sur la piste ce week-end, notamment. Non mais non, sérieux. Pendant
notamment
la course,
avant la chicane, ouais.
Non mais pendant la course, il y avait beaucoup de petites feuilles.
Oui.
Et sur certains plans, c'était assez impressionnant de voir. Je sais pas. En plus, il y avait du vent et t'avais sur certains plans, mais vraiment des tas de petites feuilles comme ça qui payent pas de mine, mais que tu te dis que si elles passent dans les aérations. Ouais. Les moteurs n'ont pas apprécié. C'était assez impressionnant parfois sur certains plans. Ouh. Bon,
alors on a fait la partie intéressante.
Voilà. Là maintenant on passe la partie chiante pour un grand prix chiant. Déjà on vous remercie pour toutes les contributions que vous nous avez envoyées.
On remercie surtout Iceman Air.
Oui, Iceman Air. Ne demandez jamais à Iceman Air de vous écrire une liste de courses parce que Iceman Air il va vous écrire, vous allez acheter tout le magasin. C'est-à-dire que quand il a dit « Ouais, ça va être un peu long », je m'attendais à un truc un peu long. Je crois que je ne m'attendais pas à ça.
Mais en même temps, c'est ce qu'on voulait.
Donc, on va revenir sur le classement, on va nommer les pilotes, et puis on va voir qu'est-ce que vous nous avez dit sur ces pilotes. C'est bien.
On va pas citer tout le monde. Hein.
On va pas citer tout le monde. Ah, non plus.
On va prendre, vu qu'Enzo est pas là, on va essayer d'en prendre à chaque fois un. À la place d'Enzo.
Voilà, c'est une bonne idée, ça.
Voilà.
Bon. Et donc, pour notre classement du SAV, devine quoi cette semaine? On a... Qu'est-ce qu'on a cette semaine?
10? On a des ex-échos.
On a des ex-échos!
Ah, c'est chiant, ça, les ex-échos.
Des ex-échos.
On peut peut-être juste dire sur la course, nous, on disait course chiante.
Mm-hmm. Oui.
Mais on a quand même un auditeur qui n'était pas d'accord.
Oui, hein. Faut le noter, faut le dire, c'est important.
Alors c'est Iceman Air.
Je cite. Eh bien, vous allez peut-être trouver ça étrange. C'est vrai, c'est étrange.
Oui.
Mais comme je l'ai dit sur le site, j'ai trouvé que la course était intéressante et personnellement, je ne me suis pas ennuyé. Tu étais bien le seul. J'ai beaucoup aimé le côté stratégique par rapport aux pneus. Côté stratégique par rapport aux pneus, alors ça, faudra m'expliquer.
Il y a eu un peu de palpitant à la fin.
Voilà. Qui nous ont offert une fin de course palpitante, justement. Et puis, malgré le peu de dépassements, il y a eu plusieurs luttes. Alors, lutte, hein, c'est le synonyme.
C'est pas les instruments, hein.
C'est le synonyme de Button coincé 40 tours derrière Schumacher. Qui ont maintenu le suspense pendant quasiment toute la course. Je suis devin, c'est fort. Donc, pour moi, ce fut une bonne course. Voilà. Donc Iceman Air, tu as parfois bon goût pour tes pilotes, tu as parfois bon goût pour les rubriques du SAV, mais là quand même,
t'as des goûts de chien. Alors c'est pas le seul parce que je vois aussi le mail de Globen qui dit, soit dit en passant, ce Grand Prix n'a pas été chiant. Je trouve qu'il a été plus chiant que les Grands Prix sous la pluie, certes, mais il y a quand même eu quelques bagarres. Et au contraire, je crois qu'on a aussi Steph Kaur. En ce début de saison, la Formule 1 subit un sale coup. Quelques interventions météorologiques nous ont fait miroiter une saison rarement vue avec de belles bagarres en perspective. Et puis la F1 fait son retour en Europe et dès le premier pneu posé sur le sol espagnol, nos espoirs s'envolent. Les vieilles habitudes réapparaissent, nous ne sommes plus sur la voie de la combativité mais sur celle de la gestion. Ce mot gestion qui est devenu le maître mot de la F1, gérer ses moteurs, gérer ses boîtes de vitesse, gérer les coups et surtout gérer les pneus. J'en ai assez de ces règlements qui nous assassinent les Grands Prix.
Je note Bilot sur le même sujet, qui parle du Grand Prix d'Espagne, donc qu'il a trouvé ennuyeux, peu de dépassements, les pneus.
Oh, il est pas original. Hein.
Pas comme les commentateurs. Beaucoup ont signalé quand même la coke que prennent les commentateurs.
Oui, on les a même traités de pieds nickelés.
Hein, qui sont cependant payés pour ne pas trop critiquer la monotonie des courses. C'est vrai quand même que on leur demande pas de dire en direct devant des millions de gens qu'une course voilà. C'est de la merde.
Mais c'est la différence entre eux et nous quoi.
Mais ils pourraient dire. En plus parfois en autocritique ils le disent que voilà la course a pas été intéressante, que c'était une course habituelle pour l'Espagne avec peu de dépassants. On peut dire ça d'une façon très polie à 4h l'après-midi le dimanche. Et donc Bilot continue. Bahreïn et l'Espagne font-ils partie des exceptions dues à leur tracé, ou bien les courses de cette saison 2010 sont-elles en train de devenir pires qu'avant quand la pluie n'est pas présente? Et si c'est la seconde hypothèse, quelle solution proposons-nous pour essayer de remédier le problème? Alors c'est vrai, il ne faut pas oublier quand même que Bahreïn et l'Espagne, traditionnellement, il y a très peu de dépassements.
Oui, bah, c'est un circuit très étroit, c'est un circuit avec peu de lignes droites.
Ce qui est terrible, c'est que c'est un circuit qui n'est pas inintéressant, le circuit espagnol.
C'est même un super circuit. Hein,
je veux dire, le virage 3, quand tu as eu la chance de le faire, ne serait-ce qu'en jeu vidéo, où tu es en pleine vitesse, il faut pas, justement ne pas ralentir, bien tourner sa voiture, parce que bien évidemment, naturellement, la voiture part vers l'extérieur. C'est un virage extrêmement intéressant. Bon, qui est pas
mais un... Non, mais ça...
Oui.
Il y a de beaux enchaînements, il y a de beaux passages de freinage. Il y a peut-être pour moi la petite partie qui est ratée, c'est cette horrible chicane
oui.
Que vous placez à la fin pour des questions de sécurité.
Oui, alors qu'il y avait un magnifique virage en aveugle.
Mais voilà, ça c'est vraiment un très joli circuit qui a pas volé sa place en F1. On a fait récemment une étude sur le calendrier idéal des fans. Je ferai une synthèse prochainement. Il est pas cité. Parce que tout simplement, il fait l'objet des essais, que les pilotes le connaissent par cœur, qu'il n'est pas étroit, que c'est pas ça, que ça fait pas partie de ces circuits qui sont non plus des circuits de dépassement. Il y a une ou deux opportunités maximum, mais c'est pas des circuits de dépassement. C'est des circuits de challenge de pilotes, c'est des vrais circuits de pilotes.
Mais on arrive sur des cas extrêmes où, voilà, à Barcelone, il y a 2 degrés de température de différence, ils savent exactement comment modifier. Parce que ça voilà. Fait tellement de kilomètres qu'ils ont roulé sur ce circuit, les pilotes, ils peuvent quasiment faire le circuit les yeux fermés, c'est déjà le cas pour beaucoup de circuits, mais là, c'est pire. C'est un peu le même effet qu'à Bahreïn, justement, pas cette année, mais plutôt les années précédentes, vous vous souvenez, quand Ferrari et Toyota allaient faire des essais à Bahreïn. Ouais. Et justement, en course, les Ferrari marchaient bien, les Toyota marchaient pas trop mal. Et on incrimine ça sur le fait que justement, parce que les voitures roulaient à Bahreïn en essai privé, et donc ils avaient des datas.
Voilà, maintenant, après, c'est vrai que toutes les équipes ont des données très poussées sur chaque circuit. Mais c'est vrai que là, c'est quand même c'est le circuit de test. Et on ne peut pas passer à côté. Et on voit, hein, quand on a une écurie qui n'a pas piloté dessus, qui n'a pas de repères, ce qui était le cas de HRT, ils sont paumés. Les pilotes, ils étaient paumés ce week-end. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient même pas où se mettre dans les virages. Alors. Quant à la question qui concerne de savoir qu'est-ce qu'on ferait, on y a déjà répondu. Je pense déjà, l'un des gros problèmes, on l'a vu, ça a été significatif avec Fernando Alonso, c'est la gestion des pneus. Fernando Alonso a passé quasiment les trois quarts de la course à gérer ses pneus.
Sachant qu'on sait que Bridgestone fait des pneus assez durs.
C'est ce que dit Steph Kaur quand il se dit, voilà, on est devenu dans une étape de gestion des pneus. Moi, je l'ai dit sur le Twitter du SAV en disant, voilà, ce règlement m'énerve parce que c'est pas tant la gestion des pneus. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait l'obligation de passer deux trains de pneus différents, etc. Mais quand on voit que ça... Pour les pilotes, ça devient à un moment donné qu'ils gèrent. Quand je vois Fernando Alonso gérer ses pneus, Bah, ça c'est chiant, je préfère voir un pilote à fond, même s'il double pas, je préfère le voir à fond, mais ne pas gérer ses pneus comme il le fait.
C'est, donc, c'est ce que je disais, je sais plus à quelle émission. Même un pneu le plus dur, à la rigueur, ça devrait tenir une demi-course. Pas plus.
Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de... je crois qu'il y a aussi un autre de nos auditeurs, j'ai plus le nom, parce que bon, on a eu pas mal de contributions, qui disait ça, qui disait pourquoi ne pas fixer des cadres précis, des fenêtres de température, d'utilisation des pneus, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un véritable règlement sur les pneus, oui. sur l'exploitation, sur voilà, sur vraiment indiquer.
C'est vrai que pour l'instant, c'est juste bah voilà ce que le manufacturier propose. Point.
Ben c'est voilà, c'est le manufacturier qui choisit. Il fait des pneus à la demande et quand les équipes demandent des pneus durs, bah il fait des pneus durs. Et là, c'est vrai que Bridgestone fait des pneus extrêmement durs. Alors on a une autre proposition qui vient de Steph Core. Alors lui qui il le dit, hein, je vais essayer de retrouver. Sa partie. Ma véritable envie serait un changement d'un élément de la Formule 1 qui permettrait de voir des dépassements. Ce changement ferait hérisser les poils, mais d'autres sports mécaniques l'emploient avec succès et on peut assister à de beaux dépassements. Lequel vous vous dites, apprêtez-vous à un choc, dit-il, le retour au frein acier. Dangereux, lui dira-t-on. Hein, il nous dit qu'on on lui dira que c'est dangereux, mais que lui répond que les F1 peuvent s'adapter et que alors parce qu'il est un peu doué, il est un peu expert en technique, il nous dit que la spécificité des freins acier font que c'est un véritable élément de dépassement assuré, car la zone de freinage, vu qu'ils sont moins efficaces et plus longues, et que donc ça offre plus d'ouverture et d'opportunités, que le maintien en température est plus difficile et que la descente en température est plus rapide pendant les arrêts au stand, ce qui peut provoquer des erreurs ou ce genre de choses. Alors oui, après on va dire que par rapport aux performances actuelles des Formule 1, ça serait impossible de revenir au frein acier. Et lui répond simplement que c'est juste une question de durée en fait. Il nous explique, voilà, c'est juste une question de préparation. Est-ce qu'on est prêt au nom du spectacle à avoir des F1 tout simplement qui vont un peu moins vite?
Mais déjà sur d'autres disciplines que la F1, qui peuvent parfois aller presque si vite. Je pense par exemple à l'endurance. Ils ont quel type de frein? Ils ont aussi des freins carbone?
Je pense, en tout cas les grosses LMP1.
Parce que déjà LMP2, on pourrait comparer peut-être. Carbone. Ouais. Freins carbone en IndyCar. Est-ce qu'ils ont des freins carbone?
IndyCar, je crois que c'est freins acier. Ouais, hein. Alors là, c'est Sato Kamikaze qui est l'expert. Il confirmera peut-être sur le site, mais je crois que en IndyCar, c'est des freins acier. Donc c'est assez traditionnel, hein. Ouais. Même en NASCAR, c'est des freins acier à étrier.
Et ils vont à plus de 300, ça, y a pas de souci. C'est une production intéressante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je demandais pour vous savoir si déjà, parce que par rapport à cette question de la sécurité, on peut voir par exemple si ces deux exemples sont bons, qu'aux États-Unis, voilà, on n'hésite pas à rouler à plus de 300 avec des freins acier, donc c'est possible.
Et bon, il propose aussi une autre solution qui avait déjà été proposée d'ailleurs par Enzo. Il propose de donner des points en fonction des places gagnées, même s'il reconnaît qu'il y a toujours le problème de savoir, il y a toujours le problème de la typologie de qu'est-ce que c'est qu'une place gagnée, gagnée au sol, etc. Enzo lui avait proposé un système de compteur de dépassement qui, tous les 5 dépassements, le pilote recevrait, je crois qu'il avait proposé un point.
Ou bien un comptage au global, c'est-à-dire on prend la position de départ, on prend la position de fin, puis on regarde celui qui a gagné le plus de places, quoi.
Voilà, et il prend des points bonus pendant la course.
Déjà, l'an prochain, avec le retour des simples diffuseurs, ça sera intéressant de voir. Parce que c'est vrai qu'avec les doubles et triples diffuseurs, les voitures génèrent énormément d'appui. Donc elles sont collées au sol, hein.
Mais c'est ça aussi, je pense que d'un point de vue réglementaire, la FIA fait tout...
C'est vrai qu'on t'a beaucoup...
Dans sa première intention, elle fait tout ce qu'elle veut. En fait, ceux qui sont à condamner, c'est les écuries. C'est les écuries. C'est ça qui était très drôle d'entendre les écuries dire « Ah bah oui, ça serait bien quand même qu'on change le règlement, parce que là, on se fait un petit peu chier à Bahreïn. » Oui, enfin, en même temps, le double et triple diffuseur que vous avez vous-même mis en place, que vous avez vous-même exploité et exploité à fond, bah, vous en êtes responsable et on sait très bien qu'aujourd'hui, ça génère plus d'appui, que ça crée des problèmes. Voilà. Je pense que là, on a fait le tour
de plein de choses. Ça, d'ailleurs, sur le côté technologique, Icemania, de toute façon, vu la plâtrie qu'il nous a mis, il parle de plein de trucs.
Hein? Ouais.
Il est très sceptique sur les nouvelles motorisations qui sont prévues pour 2013.
Oui.
Hein, on se dirige vraisemblablement, donc vous avez sans doute déjà entendu parler, comme vous aimez la F1, donc vers des 4 cylindres, 1 litre 5 turbo. Alors attention, c'est vrai que les moteurs vont être plus petits.
Oui, alors
Et le but, c'est quand même qu'il y ait autant de patates qu'aujourd'hui. Hein.
Voilà, c'est ce que disait Iceman Air, c'est que, alors j'ai plus son mot, mais je crois que je vais essayer de retrouver ça vite fait. Je suis partagé entre le caractère humiliant pour une F1 d'avoir un pauvre 4 cylindres et l'excitation de découvrir des moteurs turbo. Alors, apparemment, il a pas connu l'ère des turbos, enfin, j'avouerai que moi non plus.
C'était des monstres, mais,
voilà, faut quand même dire que si on a arrêté le turbo, c'est justement parce que on était dans des puissances, mais des trucs de fou. Et donc, bien évidemment, bah pour vu que le turbo, ça s'ajoute au moteur pour le booster. Si on veut garder à peu près la même performance d'aujourd'hui, l'objectif, c'est de réduire le nombre de cylindres.
On parle deux turbos, on parle.
Voilà, on parle d'un biturbo, donc on peut réduire assez significativement le nombre de cylindres. Et si on réduit le nombre de cylindres, eh ben on réduit d'une certaine manière la consommation et en tout cas la.
Il y a énormément d'avantages. Donc le moteur est plus petit. Il sera plus proche dans sa conception de moteur entre guillemets de Monsieur Tout le Monde.
Oui.
Peu de gens ont des V8 dans leur.
Peu de gens. Ah, écoute, moi j'en ai une dans ma.
Peu de gens ont des V8 Atmo dans leur Fiat Punto. Donc il y a ça. Le moteur étant plus petit, il va coûter moins cher. Donc aussi pour les petites équipes, ça va quand même être mieux. Comme il va être plus proche de moteurs de série, ça pourrait aussi ramener des constructeurs. Parce ouais. que justement, ils vont se dire, bah voilà, en F1, on roule quand même avec des moteurs proches du moteur de série, entre guillemets. Donc ce sont des technologies qui vont pouvoir être plus facilement adaptables. Et c'est aussi le but de mettre ce type de moteur. Et bien évidemment, ça devrait être aussi plus écolo. Donc, beaucoup de bénéfices, je pense quand même, parce que ils en parlent quand même depuis au moins 2 ans.
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été question de mettre ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire suppression des petits ailerons et tout ça, et surtout les fameux nouveaux ailerons des F1 qui constituaient l'an dernier quand même un énorme changement, déjà, ils pensaient en fait à l'après, et je me souviens qu'ils évoquaient déjà la possibilité d'un retour des moteurs turbo. On va quand même passer au classement, je crois que là on a...
Oui, oui.
Mais on n'a pas fini avec les avis des auditeurs. Donc, nous avons 2 dixièmes, qui auront donc tous les deux 1 point.
Vas-y, balance.
Ah, attention. C'est Monsieur K et Monsieur K.
Alors, il y a Kovalainen.
Non. Bah non, en plus, il n'a pas pris part à la course, donc... Bah si, je crois.
Ah, il y a Robert Kubica.
Il y a Robert Kubica.
Et l'autre cas, Karun Chandok.
Il y a quelqu'un qui a été nommé par Enzo. C'est dans son mail, hein, je précise. C'est un certain Kabayashi. Voilà. Je sais pas qui c'est, bon, mais voilà, c'est un certain Kabayashi. Sinon, c'est plutôt Kobayashi, en fait, qui est... Et quand j'ai vu le mail, j'ai tilté direct, je fais Kabayashi, tu vois, même sur mon beau tableau que je fais pour calculer les points, au lieu de mettre Kobayashi, j'ai mis Kabayashi exprès. Avec un petit lol juste à côté. Il y a Bertayo qui l'a mis 7e. Et il y a Sato Kamikaze qui l'a mis 9e.
Sato, qui nous dit « Je suis sûrement le seul à l'avoir remarqué en tant que fan, mais il méritait amplement les points. Il partait 10e avant de s'accrocher avec Kubica et descendre en 16e place. Au final, en étant 16e à la fin du premier tour, il est 12e à l'arrivée, sans compter les abandons. Mais de toute façon, personne ne va le mettre dans son classement à part moi. » Eh ben non, t'avais tort.
Il y a Bertayo qui précise juste qu'il s'arrache en qualif. Mauvais départ, mais j'aime bien.
Voilà.
C'est vrai, Fouaoui, il a fait une super bonne qualif.
Ouais. Hein, en course, bah, elle est un peu gâchée par.
C'est vraiment dommage pour la Sauber qui quand même broie du noir depuis le début de la saison. Donc, ouais, c'est très dommage. En plus, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup.
Bah, il a enfin montré quelque chose, en tout cas, cette saison. Voilà, et c'est vrai que la voiture était quand même plus performante. On sait que James Kay, le nouveau directeur technique, a apporté des nouveautés.
Il y avait un up de la voiture.
Voilà.
Et donc, Kubica, Alors, que j'ai mis 8e, parce que c'est vrai que je me suis plus ou moins basé quand même sur le classement.
Hein. Je l'ai pas mis, moi.
Et les auditeurs, en haut global, qui l'ont mis 9e. Et donc, Sato l'a mis 8e. Iceman Air l'a mis 7e. Steph Core l'a mis 8e. Bilo l'a mis 10e, donc souvent cité quand même. Globen 8e. Maël l'a carrément mis 4e. Et Damien 9e.
Alors pourquoi tu l'as mis, Shinji, toi?
Bah, il fut plutôt une bonne course. Bon, c'est pas la préférence. Après, je te le dis, j'ai fait comme beaucoup. Je me suis plus ou moins, plus peut-être que sur d'autres courses, basé sur le vrai classement.
Oui, là d'ailleurs faut signaler quand même dans le lot, c'est Steph Core qui lui sur top 10, c'est le classement de la course. Puisqu'il a mis Weber, Alonso, Vettel, Schumacher, Button, Massa, Sutil, Kubica, Barrichello, Gasperi. Disant n'y voyez pas de mauvaise foi ou de ruse malsaine dans ce classement, je pense que chacun mérite sa place. Pour preuve, j'ai laissé Schumacher dans le classement.
Ah écoute, il y a pas de mauvaise foi en plus vu la course qu'on a eue.
C'est vrai.
Voilà. Donc à la 9e place, le pilote espagnol, Rémy Alguersuari, que j'ai mis 10e, que tu as mis 8e, comme Enzo.
Yes.
Alors, il n'est pas dans le vote des auditeurs, mais il faut noter qu'il est en fait justement 11e. Donc, il n'était pas
on
très loin.
On s'en fout, on l'a mis. Alors, sur Rémy, vu que je l'ai bien mis, je vais parler le premier, comme ça je vais me la péter. Bah, son départ. Très joli départ, assez couillu d'ailleurs dans la première chicane, enfin dans le double virage d'entrée, parce que tout le monde a dit virage de jeu vidéo, enfin
Bertheo dit même départ fantastique, hein.
Oui, nous quand on est dans un jeu vidéo, on risque rien, sauf que lui, il a quand même une bande de tordus autour de lui. Donc c'est magnifique départ qu'il fait. Il est vraiment surprenant à Alguersuari depuis quelques courses. Certains disent qu'il prend peu à peu le dessus sur Buemi.
C'est vrai que c'est surprenant, oui.
Franchement c'est assez chouette. Ouais, moi j'ai bien aimé. Il mûrit, il progresse, c'est franchement confirmé.
C'est des pilotes qu'on aime bien, qu'on voit apparaître et on voit qu'ils progressent. Et c'est toujours agréable de voir une progression comme ça.
Ouais.
Alors c'est vrai qu'il a eu une pénalité.
Il s'est un petit peu rabattu quand même sur Shandok, ou Sénat, Shandok.
Parce qu'on a aussi eu quand même un retour des drive-faux parce qu'on était quand même tranquille depuis 4 courses. Là on en a eu deux. Bon. Exception faite de celui d'Alonso, mais Alonso c'était normal.
Ouais.
Voilà. Mais là pour cette course, on en a eu deux d'un coup. En plus les deux Toro Rosso.
Oui.
D'ailleurs je sais plus qui demande pourquoi il a eu le drive-thru baby.
Alors oui.
Et alors ce qui est dingue, c'est que j'ai cherché pour voir justement les explications de Buemi, parce que c'est quand même lui le premier concerné. Et bon, il faut rappeler quand même qu'en conférence de presse, il parle en anglais. Donc pour la traduction de l'anglais, normalement, ça devrait pas être trop compliqué vers le français.
Ouais.
Ben, j'ai trouvé deux sites où il n'y avait pas la même explication.
Ah.
L'un disait que c'était au niveau de la sortie du stand, dangereuse, et l'autre a mis comme traduction vitesse excessive dans le stand.
Non, mais en fait, c'est...
Pour moi, c'est plutôt la sortie.
Il a été pénalisé pour la sortie quand il était à la bataille avec Sutil, Yuji, je sais plus. Au premier virage et qu'il a court-circuité enfin, entre guillemets qu'il a court-circuité la petite portion bitumée avec les boudins ralentisseurs et il est passé par-dessus les boudins et ça qu'il par-dessus les boudins et ça qu'il est pas il est revenu un peu vite en piste.
Ouais,
bon il n'y avait pas gros danger
il a doublé personne
Venant, je pense pas que c'était la manœuvre la plus polémique, et c'est justement ce qu'on disait lors de la dernière émission, c'est que c'est ça le problème, c'est que là on avait Derek Warwick, last weekend on a Damon Hill, il y a un mois en Chine je sais plus qui on avait, on n'a jamais les mêmes mecs, ils vont, même si c'est toujours, il y a toujours Whiting et deux autres commissaires qui sont tout le temps là, mais il y a toujours des décisions qui vont aussi être influencées par le mec qui est là, et bah, si le mec il influence pas, bah, la décision elle est prise bêtement, et donc voilà, on est toujours confronté à ce problème sur les pénalités. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment elles sont prises. Il n'y a pas véritablement de tableau. Voilà. Des coups, on est assez gentil avec Lewis Hamilton sur des manœuvres ou même Sébastien Vettel sur le dernier Grand Prix. Et là, sur ce Grand Prix, bah, pour une petite faute, bon oui, il revient vite. Il y a plus grave quand même.
Oui, oui. Oh. Déjà qu'il se tape les boudins et tout, que ça, voilà.
Ouais, enfin, voilà.
C'est déjà que le passage qu'il fait peut niquer sa course, faut bien le dire.
Oui.
Si en plus il se tape une pénalité.
Non, puis juste d'ailleurs, on a Vettel qui a fait quasiment à peu près la même chose,
oui.
Moins vite. Voilà, il aurait pu aussi être pénalisé. Enfin voilà, c'est quel est le degré? On est toujours face à ce problème et on en vient à se dire à la limite pourquoi ne pas faire un système sans sanction, comme ça il n'y a pas de polémique, il n'y a rien. Et
à la 8e place,
on peut peut-être se citer un auditeur.
Oui, vas-y.
Qui a mis le Gasuari avec du tech, bah, Iceman Air, qui dit encore des points pour ce jeune pilote qui prend lui aussi l'ascendant sur Buemi, qui n'est pas le premier venu. Ça te pavernit en ce début de saison. Il s'affirme de plus en plus comme une valeur sûre. Dommage pour son incident avec Shandok qui vient gâcher le tableau. Donc voilà, voilà.
Ok. À la 8e place, le pilote Williams, Rubinho.
Et vous verrez que là, je ne vais rien dire.
Bah si, tu l'as mis 7e.
Ah oui, donc je vais rien dire, je vais pas faire « Oh non, encore bête, c'est tout. »
Je l'ai mis 9e, Enzo l'a mis 9e et les auditeurs l'ont mis 10e. Donc finalement, plutôt un consensus, comme on dit. Bertaillot l'a même mis 5e. Hein.
Voilà, moi honnêtement, je l'aurais mis plus haut dans mon classement, je l'aurais mis plus haut si j'avais tenu compte de critères purement personnels et pas de critères d'ensemble. Et, il s'est foiré en qualif comme pas possible, il est devancé par Hülkenberg, il hérite de la place du con, et il fait une course phénoménale où il dispose de son coéquipier d'une manière assez autoritaire dès le premier tour dans le virage au bout de la ligne droite, de la ligne droite intérieure. Il fait une course très solide, voilà, il n'y a rien à dire. Bon, alors, par contre, apparemment, il a bénéficié, lui, des... Alors, je sais pas, parce que j'ai trouvé deux informations contradictoires. Certains disent qu'il a bénéficié seul des évolutions de la Williams, et d'autres disent qu'il a bénéficié des évolutions et qu'on a réussi à faire venir les évolutions pour Hülkenberg, pour la qualif et la course.
Lui, qu'on attendait s'attendait à ce qu'il ait peut-être un peu de mal face à Hülkenberg, ben là... Il est en train de lui montrer comment on roule en F1, quoi.
Ah oui, et puis même Hülkenberg l'a dit, hein, quand il voit comment il a piloté, c'est un modèle et c'est et voilà. Alors ce qui était très intéressant, ceux qui ont lu F1 Racing, il y a une interview de Barrichello où il dit que lui il veut pas être un professeur pour Hülkenberg, qu'il est pas là pour ça, que lui s'est fait tout seul et que donc Hülkenberg doit se faire tout seul. Il s'y fait des erreurs, il fait des erreurs et lui Barrichello bah fait son chemin et là d'être leader d'une écurie, peut-être en milieu de peloton, mais peut-être que ça lui fait du bien et voilà, là, honnêtement, moi, il m'a fait énormément plaisir. Et c'est rare.
Bah, comme dit Iceman Air, hein, il suffit d'en tenir deux chiffres, 18 et 9. Voilà.
on a qui d'autre, on va prendre là au pif, on va prendre Bilo, par exemple, qui nous dit encore là, toujours là, le vieux Briscard après des qualifs ratés, ce qui prouve que la Williams n'est pas excellente, a pris un super envol, a tenu le rythme de Sutil et Kubica, malgré une monoplace inférieure, et a fait une nouvelle fois de l'ombre à Hülkenberg. Sans exagérer, ses prestations depuis le début de saison sur une voiture moyenne rappellent celles d'Alonso en 2009. Et c'est vrai que là-dessus, il n'a pas tort.
Oui. À la 7e place, le pilote Force India, Adrian Sutil, donc 7e, la place que je lui ai donnée, 7e place. Alors, on l'a tous les trois nommé. Alors, toi, Yannick, tu l'as mis 9e. Enzo l'a aussi mis 6e. Et alors, sur la moyenne des auditeurs, il est 7e, sachant qu'on est plus ou moins dans les mêmes eaux. Hein. Je vois Bertaillot qui le met 8e. Iceman Air le met 6e. Bilo, 8e. Voilà, c'est à peu près les mêmes eaux. Damien, bah, 6e.
Bon, personnellement, moi, je l'ai mis juste parce qu'il était dans le classement final. Hein.
Moi aussi.
voilà. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose parmi nos auditeurs pour le défendre plouf, plouf, plouf. Alors là, je vois rien. Globen, est-ce qu'il l'a mis? Non.
Bilo. La Force India paraît un peu moins bonne en qualif, mais elle reste bien en course, presque au niveau de Renault et Mercedes. Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
Sutil en a tiré la quintessence et après un joli départ, il a bien résisté à Kubica.
Voilà, c'est tout. Sur Sutil, je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire.
Non, voilà, je regarde Iceman Air, qu'est-ce qu'il dit?
Iceman Air, il a rien mis.
Encore une fois, il est au rendez-vous. Ah. C'est fort d'autant plus remarquable que la Force India semble avoir légèrement régressé Bah, c'est vrai que par rapport à Renault et Mercedes, c'est pas forcément évident.
Ouais.
De se maintenir aussi bien. Faut pas oublier que l'objectif de Force India, c'est 5e, qui sont 6e, sachant qu'on s'attendait pas forcément à ce que Renault marche aussi bien, donc c'est pas mal du...
Voilà.
Passons à la 6e place.
Of course.
Avec le champion du monde en titre, Jenson Button, que j'ai mis 6e, que tu as mis 6e, que les auditeurs ont mis 6e. Alors par contre, Enzo l'a mis 10e, hein. Là, direct, cash, voilà. Du côté des auditeurs, qu'avons-nous? J'ai Maël qui l'a mis 8e, Globen 6e.
Alors Maël qui l'a mis 8e sans mettre de commentaire en face, hein.
Stéphor l'a mis 5e. Iceman Air aussi a été très dur avec une 9e place. Par contre, Sato Kamikaze l'a carrément mis 4e.
On va peut-être pouvoir lire les commentaires de Sato Kamikaze et de Iceman Air, hein, pour avoir les deux côtés, puisqu'on n'a pas Enzo. On
commence par le négatif.
Donc je vais lire Button, 9e, malgré sa course transparente, je pense qu'il a une nouvelle fois bien géré l'usure de ses gommes, chose d'autant plus dure qu'il est resté pas loin de 50 tours derrière Schumacher, et puis il ne s'en sort pas trop mal, par contre je n'ai pas trop aimé que monsieur se plaigne de la façon dont Schumacher l'a doublé, il s'est cru où dans un manège de fête foraine.
Pour Sato Kamikaze, donc Button, joli baston avec Schumi, que j'ai beaucoup apprécié, parce que je le croyais pas assez saignant, entre guillemets. Alors c'est vrai que ça dépend comment on voit en fait cette opposition de style. Est-ce que c'est Schumacher qui fait une magnifique résistance pendant 40 tours? Est-ce que c'est Button qui arrive pas, alors qu'il a une voiture plus puissante, à doubler Schumi?
Oui, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que on est obligé de si on note bien l'un, on est obligé de pas forcément trop, d'être clément envers l'autre.
Oui.
Voilà, moi je sais que par rapport à ce que j'ai mis Schumacher, je pouvais pas non plus mettre Button trop bas parce que voilà, on sait très bien, on se le disait avec Steph Kors sur Twitter, c'est pas un pilote de peloton, on le sait, c'est pas Lewis Hamilton, il va pas attaquer à tout va. Moi, contrairement à ceux qui sont déçus, moi j'ai plutôt bien aimé. Il a été offensif. Il a pas fait la différence, ça c'est certain. Non. Il a pas fait de manœuvre qui a fait la différence. En même temps, devant, il a Michael Schumacher et on sait que Michael Schumacher, on la lui fait pas. Et que Michael Schumacher, là où il est fort, c'est que il sait résister aux manœuvres qui font la différence. Voilà, il a pas fait la manœuvre qui a fait la différence, mais il s'est plusieurs fois montré dangereux. Surtout parce qu'il a une voiture, difficile, plus rapide que Schumacher. Et puis il a géré ses pneus et je pense qu'il a aussi à un moment donné, il a compris que c'était fini derrière Schumi et qu'il a géré sa course. Il a géré ses pneus, il a cherché les points et que voilà, c'est aussi comme ça qu'on construit un résultat. Et aujourd'hui, il a fait peut-être un bon choix parce que quand on voit qu'Hamilton abandonne, il lui reprend encore 10 points. Donc la prudence parfois est mère de raison.
Alors, on va passer à la première partie du classement. À noter que ne serait-ce que sur le vote des auditeurs, les 5 premiers se sont vraiment détachés.
Hein, oui.
Puisque le 5e, par exemple, en nombre de points, avait plus du double de Button.
Ah ouais.
Donc il y a vraiment un gros écart. Alors, en 5e position, notre cher Sébastien Vettel. Que j'ai mis 5e. Que tu as mis 5e, Kenzo a mis 3e, et donc les auditeurs l'ont mis 4e. De toute façon, on trouve ces 5, de toute façon, chez les 4. C'est rare de le voir comme ça dominé, je trouve, par Weber.
Dominé, puis surtout, moi je pense qu'il a montré son défaut, c'est psychologique.
Oui.
Honnêtement, il n'a pas fait une bonne course.
Ah non, non.
Par rapport au standard Vettel, il n'a pas fait une bonne course.
Berthaillot l'a mis 10e, hein, carrément. Pour te dire qu'il fait une mauvaise course, c'est Vettel. Il marque décevant, mais il n'y a personne d'autre à mettre. Non, mais c'est la preuve que Vettel ne fait pas du tout une bonne course.
Ouais.
Pour qu'il soit mis comme ça, 10e, pour le classement.
Je pense que là où il se sauve la course, c'est d'abord par sa gestion de la fin de la course. Et c'est par ce qu'on a appris que l'équipe lui avait demandé d'abandonner. Alors, bon, ça, faut toujours se méfier parce que. Il demande d'abandonner. Quand un pilote n'a plus de frein, juste pour le registre, l'écurie est obligée de dire « Non, écoute, arrête-toi, c'est trop dangereux, faut que tu t'arrêtes. » Alors ça, derrière, si jamais le mec se tue dans le virage, ils peuvent très bien dire au procès « Ben nous, on lui a dit, mais nous, on peut pas l'arrêter, on peut pas se mettre sur la piste. » envoyer Iron Man avec son armure pour arrêter la voiture. C'est pas possible. Oui, j'ai vu Iron Man 2 il y a pas longtemps.
Hier. Hein.
Hier. Donc c'est pas possible. Voilà, je pense que ils lui ont dit est-ce que tu ça serait bien que tu t'arrêtes parce que là c'est pas possible. Il a dit non, je vais essayer. Puis ils ont dit d'accord. Maintenant c'est vrai qu'il a fait un choix. Moi j'étais quand même assez épaté de sa manière de freiner. Enfin, il ralentissait, il utilisait le frein moteur sur une F1, faut le faire. Voilà. Et pourtant, ce qui était dingue, c'est qu'il perdait pas de temps. À un moment donné, on a vu une animation où on voyait la perte de temps sur les trois derniers tours par rapport à Michael Schumacher.
Oui.
Il perdait 1,5 seconde au tour sur Michael Schumacher, qui lui avait des freins.
Et à noter que Maël, c'est le contraire, l'a mis deuxième.
Oui, voilà.
Globen l'a mis trois, Bilo l'a mis trois, Steve Carr l'a mis trois. Donc globalement, les gens ont plutôt extrêmement bien, ont été impressionnés par ça.
On en a d'ailleurs un, je sais plus qui nous a dit, je crois que c'est Globen qui nous a renvoyé un mail après pour dire qu'il retouchait pas à son classement, mais que vu qu'il avait appris qu'on lui avait demandé d'abandonner, il aurait peut-être mis Vettel plus haut. Je pense qu'il y a aussi ça qui a eu un impact. Je pense que dans l'esprit de tout le monde, Vettel, on allait pas le mettre dans les 5 premiers, on allait plutôt le mettre dans la deuxième moitié du top 10, si on respecte un peu le classement.
Globen avait mis 3, hein.
Le fait qu'il a véritablement défendu sa voiture et qu'il ait joué le truc, c'est ce qu'on leur demande. C'est il a essayé d'assurer les points puis en même temps de prendre le risque de provoquer un nouvel abandon. C'est intéressant. C'est ce que j'aime chez Vettel, c'est qu'il fait les choses à fond et voilà. C'est vraiment un pilote que j'adore. Même si là psychologiquement il a été laminé par Weber, mais il va être dangereux à Monaco.
Et puis encore et toujours ces grandes questions de la fiabilité, quand même.
Alors, ce que je disais tout à l'heure sur les graviers, l'affaire Barrichello et les graviers, ça a été réutilisé par les deux équipes qui ont eu des problèmes. McLaren, qui a mis en cause les graviers pour la roue. Alors, en première théorie, parce que après, je sais qu'il y a eu rapport de ce qui avait causé l'incident, mais je l'ai pas lu. Je suis honnête. Pour Vettel, on dit aussi que c'est un gravier qui aurait cassé le frein, etc. On parle quand même de graviers qui font 5-6 mm. Non, c'est le frein qui a cassé, voilà.
Et mais on revient aussi... Icemaner souligne ses problèmes de fiabilité de Red Bull.
Mais on revient aussi à ce que disait Enzo, je crois, lors de la dernière émission. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas aussi un problème lié au pilote? Est-ce que c'est pas le pilote qui, ce qu'on disait à une époque sur Iceman, Kimi Räikkönen, Iceman. Sur Kimi Räikkönen, est-ce que c'est pas le pilote qui attaque trop et qui soumet sa voiture à trop de pression? Et comme on connaît les voitures de New Way qui ont tendance à être fragiles, bah peut-être qu'il tolère pas un pilotage aussi agressif que Räikkönen ou Vettel. Ça va être beau Red Bull l'an prochain.
Ouais. Mais déjà cette année, je pense que cette fiabilité de Red Bull, c'est peut-être même le point central de l'année 2010.
C'est la fiabilité de Red Bull qui a sauvé le début de saison. Qui a sauvé le début de saison.
Et c'est peut-être sur ça que va jouer la saison. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils vont peut-être pas gagner le championnat, même avec ses soucis de fiabilité, mais ça sera beaucoup plus dur.
Mais il faut aussi souligner derrière que on est aussi confronté dans une F1. Là aussi, Enzo nous l'avait dit en début de saison. On est dans une F1 quand même extrêmement fiable. On atteint des taux de fiabilité. Quand on voit Ferrari casser un moteur, on dit oh la voiture est pas fiable. Non non, la voiture elle est normalement fiable. Voilà, sauf que le standard F1,
des taux de fiabilité d'aujourd'hui, il y a encore 15 ou 20 ans, les ingénieurs, ils en rêveraient. Hein.
Ah bah oui, voilà. Donc,
péter un moteur par an seulement.
Même la fiabilité de la Red Bull, les mecs, il y a 15 ans, je pense qu'ils en rêvaient, parce que voilà, on est dans une voiture qui est une voiture très performante, qui va avec la limite et qui, voilà, à cette petite limite technique, la fiabilité, mais si elle marque à chaque fois...
Voilà. Si elle est fiable, voilà, c'est déjà une très bonne voiture. Donc, si elle est fiable, ça va être un monstre. Voilà.
Et voilà. Voilà. Elle ne perd pas nécessairement des gros points quand elle n'est pas fiable. Et quand elle est fiable, bah, elle gagne des gros points. C'est quand même la victoire, un podium, c'est des gros points cette saison.
Passons à la suite du classement avec des ex-aequo. Donc, ex-aequo à la 3e place, Michael Schumacher. 4e, ça va être sa meilleure position depuis le début de la saison, mais il faut bien dire que c'est sa meilleure course depuis le début de la saison. On a revu une course du standing qu'on lui connaît.
Oui.
De qualité.
Sans la voiture, mais
voilà.
On a revu.
Il y a pas encore. Bon, il faudrait encore que la voiture soit encore un peu mieux.
C'est pas le Brésil 2006.
Voilà. Mais on a retrouvé quelque chose.
Ex aequo avec
Lewis Hamilton. Alors juste pour noter, donc Schumacher, je l'ai mis quatrième. Dino, tu l'as mis deuxième. Tu retournes ta veste.
Un peu, ouais.
Enzo l'a mis cinquième. Et alors les auditeurs en moyenne l'ont mis quatrième. Donc, je vois Bertaillot l'a mis quatrième. Sato Kamika sixième. Iceman Air troisième.
Globen l'a mis premier.
Oui, Globen l'a mis premier. Damien quatrième. Voilà, ça ferait dans ses eaux parce que, oui, c'est logique. Des pilotes qui ont fait un peu mieux, qui se détachent. Donc oui, le mettre comme ça, quatrième, cinquième, ça, c'est assez logique.
Bah, le commentaire d'ensemble, c'est ce que tu disais, c'est qu'on a retrouvé.
C'est l'impression, oui, qu'il a donné.
Voilà, un peu du Kaiser, ça c'est vrai. Mais, faut quand même souligner, il est loin.
Oui.
Il est quatrième, enfin, il est cinquième si on compte pas l'abandon d'Hamilton, mais il est à une distance, voilà, au point que Vettel peut se permettre d'assurer sans frein pendant une dizaine de tours. La Mercedes est peut-être plus à son goût, mais clairement sur ce week-end, la Mercedes elle a fait un pas en arrière au niveau des performances.
C'est toujours le même problème, c'est que t'as beau avancer, les autres aussi avancent.
Voilà, eux ils ont avancé, mais la voiture, voilà, faut pas se masquer parce que Schumacher a fait une bonne performance. La voiture n'a pas été bonne, tout simplement. Schumacher a été bon, mais la voiture a dans les En tout cas, dans les circonstances de course, la voiture n'a pas été bonne.
Avec cette double entrée, ça c'est bien le truc à la con, tu vois, qu'on risque de revoir sur d'autres voitures l'an prochain, si jamais ça marche. Hein. Autre chose à dire sur Schumacher ?
A.S. Manner qui dit enfin une course digne de son statut. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Ce n'est pas encore le très grand Schumi, mais le Kaiser est sur la voie du succès, ça ne fait aucun doute. Un moment, la nouvelle Merco lui convient mieux et on a revu du grand Schumacher. J'ai trouvé cela exceptionnel car ça montre que son instinct de chasseur et que ses réflexes sont toujours là. Et puis il faut ensuite ajouter sa magnifique résistance face à Button et Massa pendant 50 tours. Il y a le commentaire de Globen, je crois, qui dit un retour fracassant, il a résisté à Button du 15e au 66e tour. On a qui d'autre dans l'eau ? Sato Kamikaze. Ah bah alors là on va vous allez me demander pourquoi je l'ai pas cité plus tôt parce qu'il le met sixième. Eh bien tout simplement parce que je trouve ça exaspérant de la part de Mercedes Grand Prix de se prosterner face à Schumacher et développer une voiture autour d'un seul pilote au grand dépit de son coéquipier. Je tire peut-être des conclusions hâtives et je vais sûrement me faire exploser par Enzo. Non, t'as de la chance, il n'est pas là pour ce que je vais dire, mais voilà, ce coup-ci j'ai vraiment eu l'impression que Schumi ne savait rien faire sans une voiture pour lui et lui seul. Après, je dis pas qu'il a fait une belle course, je dis juste que pour moi c'est un peu bas de la part de Merco de favoriser Schumi alors que c'est Rosberg qui était deuxième au championnat constructeur. Au championnat pilote. À noter par exemple que Maëlle n'a pas cité, je crois, Schumacher. Non, elle l'a pas cité. Non, voilà, sur Schumacher.
Et alors donc sur Hamilton, qui a été bien noté. Alors, les auditeurs l'ont mis cinquième. Enzo l'a mis quatrième.
Il a été bien noté si on compare à son classement. Mais si on compare à son classement de la course, il a été quand même moins bien noté.
Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le classement réel. Il y a le classement qu'il aurait dû avoir s'il avait pas eu ce problème de jante. Parce que, donc, les auditeurs l'ont mis cinquième. Enzo l'a mis quatrième. Tu l'as mis troisième et je l'ai mis deuxième, en fait, tout simplement, parce que c'est la place qu'il aurait dû avoir.
Voilà.
Et globalement, oui, les auditeurs l'ont plutôt bien noté.
Il a fait ce qu'il fallait faire. Enfin, il a fait.
Oui. Mais déjà, il a quelque chose qu'on doit lui mettre à son crédit, c'est qu'il a résisté au Red Bull.
Oui, voilà, c'est à peu près le seul qui a été dans le rythme, tout en semblant préserver quand même ses pneus, parce que il a été parmi ceux qui ont ravitaillé le plus tard, je crois. Voilà, donc, enfin, ravitaillé, il a changé de pneus le plus tard. Voilà, il y a pas grand chose à dire, moi, sur Hamilton, il a fait une très belle course, propre, mais aussi parce qu'il était aux avant-postes. Ce qui est assez significatif, c'est que sur les quatre premières courses, il fait 32 dépassements. Sur la course de Barcelone, il fait un dépassement. Voilà. Et c'est ça aussi. Alors, par contre, c'est le dépassement dans les stands. Voilà.
Oui.
On ne devait plus en voir, on en a vu un quand même.
Oui, c'est quand même surprenant de voir un dépassement dans les stands Je veux dire, on parle voilà. d'écart de 2-3 secondes, hein, pas plus. Hein. Enfin, si je me souviens bien, Vettel fait un arrêt au stand assez long.
Alors, on a dans les déclarations Globen, Bilot qui le met deuxième et qui dit belle manœuvre sur Vettel, mais malheureusement pas récompensé. Si l'homme est assez fort pour ne pas se laisser abattre par cet abandon, le fait que son coéquipier lui prenne encore des points doit passablement l'agacer. Déclaration de Sato Kamikaze qui dit pour une fois qu'il me casse pas les couilles, il méritait amplement ce podium, mais bon, la chance fait aussi partie de la course, c'est vrai. Alors, on a ceux qui l'ont pas mis. Globen, par exemple. Mais bon, Globen, il met Hülkenberg.
Globen a un classement extrêmement spécial.
Oui, parce que, alors, on peut quand même citer vite fait le classement de Globen. Mmh. Parce que, on va faire un petit aparté, parce que Globen, il a quand même pas cité beaucoup de pilotes qui vont être dans le top 10. Mmh. Il a mis Schumi en premier, Weber deuxième, Vettel troisième, Alonso 4, Hülkenberg cinquième.
Oui.
Bon. Belle résistance face à Nico Rosberg.
Ouais.
Button 6, il a mis Chandock septième. Mmh. En disant, comme je me rappelle pas de la course, autant donner des points aux petits pilotes. Bon, ok, la course était un peu chiante quand même. Il a mis Rosberg 8e en disant, ah ça y est, je m'en rappelle de la course.
Alors, quand même, faut dire un truc, hein. Avoir mis Rosberg dans son classement, c'est quand même avoir fumé un gros truc ce week-end. Hein.
Je suis pas d'accord, parce qu'il a quand même fait meilleure prestation avec la voiture en fond de peloton que Schumacher en Australie.
C'est méchant ça.
Ouais, c'est vrai, aussi. Il a mis Senna 9e en disant, dernier, il s'est planté dès le premier tour, une course efficace, le rapport tant nombre de tours est parfait. Et il a mis 10e, et là c'est une petite dédicace à Enzo, il a mis Kovalainen en disant, juste pour faire chier Enzo. Je sais pas pourquoi.
Rappelons que Kovalainen n'a pas pris le départ, hein. Voilà. Donc il a mis un point à quelqu'un qui n'a pas pris le départ. C'est bon pour Hamilton?
Bah, je pense pas qu'il y ait d'avis particulier pour une fois qu'on est à peu près tous
voilà,
unanimes et un peu d'accord sur Lewis.
En positif en plus, donc, à la deuxième place.
Mais qui cela peut-il bien être?
Donc non, ce n'est pas Felipe Massa, mais évidemment, c'est Fernando Alonso.
Bah non, ça peut pas être Massa, hein.
Non. Alors, Alonso, deuxième pour les auditeurs, deuxième pour Enzo, quatrième pour toi. Troisième pour moi. Bertaio et Sato l'ont mis troisième. Iceman R deuxième. Mel l'a mis premier. Carrément. Ouais, c'est ça. Damien deux.
Qu'est-ce qu'elle dit, Mel?
Global.
Mel, elle dit Monsieur Chance du week-end.
Oui, bah, c'est vrai que sur les 10 derniers cours de course, il a quand même eu vachement de bol.
Ouais. En même temps, les grands champions attirent la chance. Hein.
Oui, parce que passer de 4 à 2, quand même, c'est joli.
Alors on notera dans les déclarations, on notera Globen qui met Alonso quatrième en disant comme toujours flamboyant au volant de la Ferrari avec ou sans les mains. On a qui d'autre? Course solide, aucune erreur, rien à dire aussi pour Sato Kamikaze. Meilleur que ce que sa voiture lui permettait en qualif et en course, très bon résultat au final avec de la chance quand même de la part de Bilot qui l'a mis quatrième. Et Icemaner nous dit, Icemaner, le commentaire d'Icemaner est assez intéressant. Mmh. Puisque je ne suis pas le seul à tourner ma veste. Icemaner qui l'a mis deuxième nous dit encore une fois une course incroyable, à l'attaque du début à la fin, toujours en contact des leaders en cas de besoin et une nouvelle fois sa détermination et sa ténacité payent. Je pense qu'il a dû également économiser ses gommes, ce qui a joué un grand rôle pour son podium. Il prouve ainsi son intelligence de course. Une nouvelle fois, il éclipse complètement Felipe Massa, définitivement en retrait. Tout comme Dino, je l'apprécie de plus en plus en rouge. Voilà. Opportuniste, il a été attentiste, voilà.
Il a eu du bol, mais une bonne course.
Voilà, c'est l'avantage d'un pilote comme Alonso qui sait ce que vaut sa voiture, qui donne. Il y a des pilotes qui donnent 70% de la voiture, il y en a qui donnent 130% de la voiture. Alonso, il donne 100%. Voilà, il va pas aller au-delà de la limite, il donne 100%. Ce que la voiture sait faire, eh ben il va faire les 100%. Pas été super flamboyant, mais à l'image d'un Button, ben il a eu l'intelligence de course pour la quatrième place, puis la troisième, puis la deuxième. Il a eu l'intelligence de course et l'opportunisme.
On passe désormais au vainqueur.
Ouais.
Vainqueur du
classement. Bruno Senna.
Vainqueur du classement et vainqueur de la course, c'est Mark Webber. Alors finalement, on n'a pas beaucoup vu. Parce que bon, il a fait la course en tête, voilà. Il a mené tous les tours.
Il a signé, je crois, une douzaine de records de tours de suite tours. Ouais. Au début de la course.
Et en fait, il est même au classement des meilleurs tours, il est deuxième. Hein. Donc voilà. Il a failli faire un hat-trick quand même.
Sachant que c'est Hamilton qui fait le meilleur tour, un moment où Weber, lui, a plus raison d'attaquer, quoi. Il fait que économiser.
Donc, sur les quatre votes, donc, il a été mis premier, et je regarde sur les auditeurs, pas mal de monde l'a mis premier, en fait. Globen l'a mis deuxième seulement. Maël l'a mis troisième. Sinon, tout le monde l'a mis premier.
On a pas parlé du départ, mais je trouve qu'on a eu sans doute l'un des plus beaux départs, en tout cas pour la tête de course, l'un des plus beaux départs depuis quelques saisons. Avec quelle voiture de fond, le premier virage, c'était propre, des croisements, des entrecroisements, il y avait vraiment plusieurs niveaux, c'était vraiment un super départ, moi j'ai vraiment adoré ce départ. Mais à Barcelone, il y a toujours de très beaux départs.
Oui, c'est vrai que la configuration avec la chicane, c'est plus large qu'une chicane, mais c'est pas mal.
Maintenant, dans les commentaires, qu'est-ce que nous avons Voilà, bon, c'est souvent ça, c'est dans les commentaires, s'il est mal placé, c'est surtout à cause du fait qu'il a mené la course, il a dominé, qu'on l'a pas vraiment vu.
Oui.
Donc on souligne les petites différences qu'il y a eu derrière.
Ah, il est pas vraiment mal classé non plus.
Voilà, non mais quand on met troisième, par exemple, je vois Maël qui met troisième, c'est parce qu'elle souligne avant le panache de Vettel et l'intelligence de course d'Alonso. On a Icemaner qui nous dit tout simplement impérial. On a il faut que je passe les 4 pages d'Asmaner. On a Globel qui nous dit une belle pole alors que le tour de Vettel semblait imbattable. C'est vrai. Une belle victoire. Il n'est d'ailleurs pas passé loin de son premier hat-trick. C'est vrai aussi. Tu viens de le souligner, Shinji. On a quoi d'autre? On a Sato Kamikaze qui nous dit impérial tout simplement. Victoire largement méritée, rien à dire. Weber pour la part de pour Bilot, sublime en qualif, magistral en course, il a facilement dominé son équipier dont beaucoup le voyaient écraser son camarade, n'est-ce pas monsieur Froissart, entre parenthèses, bonne affaire au championnat grâce à cette victoire qui va lui remonter le moral. Oui, on va pas non plus déduire sur une seule course que Weber peut battre Vettel.
Non.
On le savait qu'il pouvait être aussi rapide que Vettel. Maintenant, sur la longueur d'un championnat, ça reste juste pour lui, je pense.
Mais c'est bien qu'il le montre. Donc au classement du SAV, le classement pilote, on a des ex-échos en tête. Alonso avec Vettel avec 70 points. D'ailleurs, t'as pas mis à jour le classement de Chine. C'est pas bien.
Mais oui, mais c'est parce que je veux pas le mettre à jour directement après la diffusion de l'émission, je veux le mettre à jour un peu après et des fois j'oublie.
D'accord. Voilà. Donc, ça sera en effet, il recolle notamment Alonso, hein, puisqu'il est deuxième. Troisième, toujours Button, mais qui est à 58 points. Donc un creux quand même qui se crée. Au classement des constructeurs, alors là par contre, comme on a quand même Weber et Vettel, et que par contre on a que Alonso, par exemple, on a Red Bull qui est premier avec 121 points.
Ouais.
McLaren 107. Parce qu'il y a quand même Hamilton et Button. Et Ferrari 97.
Ouais.
Qui a par contre 30 points d'avance sur Renault. Hein. Renault 67 et Mercedes 65. Donc, les choses bougent très vite, en fait. Avec le nombre de points, qui est attribué à chaque fois, c'est très impressionnant. Sur l'autre classement, chez les pilotes, on a toujours Jenson Button, malgré la course qui peut mitiger quand même par rapport à ses concurrents directs. Il reste premier avec 70 points. Fernando Alonso, 67. Et Sébastien Vettel, 60. Sachant qu'on a, voyons voir, 8, les 8 premiers sont en 26 points.
C'est-à-dire, à portée de victoire.
Voilà, à portée d'une victoire. Sachant que
ça commence peu à peu à se décanter, mais
le truc c'est que en fait on a les huit tops sauf Schumacher qui a été remplacé par Kubica. Chez les constructeurs, alors là par contre c'est magnifique chez les constructeurs.
Ah ouais, c'est beau.
McLaren Mercedes 119, Ferrari 116 et Red Bull 113.
Voilà.
C'est
What else?
C'est génial. Voilà. Alors, ça y est.
On l'a foutu ce top 10. Ça nous stressait, hein, parce qu'avec avec la feuille d'Iceman Air.
Voilà. On vous remercie une nouvelle fois quand même d'avoir vous avoir envoyé
toutes vos
contributions qui étaient vraiment toutes très intéressantes. Alors normalement, là maintenant dans l'émission, on a la minute historique d'Enzo.
Ouais.
Mais on n'a pas Enzo.
On n'a pas Enzo.
Mais c'est quand même la rubrique la minute historique d'Enzo.
Alors, on va juste citer, on va profiter pour lui faire des fleurs tant qu'il n'est pas là, parce qu'il a un fan. Enzo. Et donc il y a un mail que je voulais lire. Enfin un mail, faut que je retrouve les 4 pages, c'est ça le truc. Donc c'est le mail de Iceman.
Oui.
Iceman Air qui nous dit donc c'est la fin de son mail, donc il dit: pour terminer, je souhaiterais donner une mention spéciale à Enzo pour sa minute historique et aussi à Dino et Shinji, car je suppose que vous avez décidé ça ensemble. En tout cas, j'adore cette rubrique et je prends vraiment beaucoup de plaisir à l'écouter chaque émission. J'ai toujours été intéressé par l'histoire de la F1, donc je trouve cette rubrique très instructive. En l'écoutant, j'ai l'impression de ne pas être le seul passionné de F1 et ça me fait du bien, car autour de moi personne ne suit la F1, et dans ces moments que je suis fier de ma passion. Donc merci à vous trois, de rien, pour ce grand moment de bonheur parmi tous les autres de l'émission du site.
Sois fier.
Voilà. Donc voilà comment rendre hommage à cette rubrique. On va pas la faire nous-mêmes, cette rubrique. Hein?
Non.
Non. On va voir si Enzo est là. Enzo, es-tu là?
Bien qu'absent du SAV du Grand Prix d'Espagne, je tenais à vous présenter la minute historique de Enzo.
Ceci est un message du comité de surveillance des podcasts. Pour relever le niveau de l'émission, le service après-vente de la F1 vous présente sa rubrique culture, la minute historique d'Enzo.
Et alors Enzo, cette semaine, quelle est ta minute historique pour concernant le Grand Prix d'Espagne ?
Alors on a souvent l'habitude de dire que le Grand Prix d'Espagne est une course particulièrement chiante. Alors, je pense que c'est pas Dino qui me contradira aujourd'hui à propos de la course
non.
à laquelle on a le droit dimanche. Mais voilà, je voulais reprendre un peu les statistiques et essayer de déterminer pourquoi une course était chiante ou pas. Alors, pour ce faire, basé en fait sur une donnée importante, qui est en fait le nombre de leaders successifs durant une course. Donc, comme d'habitude, je suis reparti avec la F1 moderne de ces 20 dernières années. Et donc, avec l'aide de ce magnifique site qui est StatF1, j'ai ressorti un peu donc toutes les statistiques de ces dernières années pour voir quelles étaient les années plus ou particulièrement chiantes et mettre le doigt aussi sur les grands prix pour lesquels on a de l'animation et les grands prix où on s'ennuie. Donc déjà on va parler en termes de saison et je vais vous donner le top 3 sur ces 20 dernières années des saisons les plus pénibles à regarder, les moins intéressantes car souvent composé d'un seul et même leader du début à la fin de la course, voire éventuellement l'apparition d'un deuxième pilote lors d'un ravitaillement. Donc la saison qui a connu le moins de leaders différents par course, avec une moyenne de 2, uniquement de 2, c'est 1992, où la domination donc de Williams et de Mansell et la fameuse suspension active fait que cette course a été très pénible. Moi, cette saison a été très pénible. Donc 2 changements de leader uniquement en moyenne par course. Et encore, si on prend par exemple la Belgique, cette année-là, il y en avait eu 6. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même, il y a eu quand même 6 courses dans l'année où il n'y a pas eu, c'était une course menée du début à la fin par un même pilote. Donc comme dirait Shinji, on s'est grave fait chier pendant l'année 92. année suivante, 1993, deuxième sur le podium des saisons ennuyeuses, avec une moyenne de 2,56. Donc, et toujours la domination de Williams-Renault et donc de Prost. Heureusement, Senna a pimenté un peu la saison pour rehausser quand même et essayer de se battre avec son adversaire Prost et donc rehausser un peu cette statistique. Et troisième sur le podium avec une moyenne de 2,60. Alors c'est assez surprenant parce que les courses ont quand même été disputées, mais visiblement peu de bagarres en tête de la course. Et c'est la saison en cours, quoi. C'est la saison 2010. Une moyenne de 2,60 puisque avec la domination notamment de Weber du début à la fin en Espagne, la statistique en a un peu pris un coup, quoi. Donc effectivement il y a des bagarres au milieu sur le peloton pour la deuxième, troisième place, mais finalement en tête peu de changements.
On reste des saisons dominées par Michael Schumacher et Ferrari.
Oui, c'est drôle parce que on s'attendrait à voir ces années-là.
Tu nous as parlé des saisons chiantes. Est-ce que tu pourrais pas par hasard nous parler aussi des saisons un peu intéressantes, quoi?
Maintenant, les 3 saisons où il y a eu le plus de bagarres, quoi, en tête de la course, le plus de changements. Un peu sans surprise, on va dire, c'est la saison 2008, avec la lutte Hamilton-Massa jusqu'au dernier Grand Prix, où avec 5,72 leaders en moyenne par Grand Prix, 5,72 changements de leader, hein, ça peut être plusieurs fois le même, pendant une course, c'est quand même une grosse différence, c'est pratiquement le double, c'est même plus du double par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc beaucoup de changements de leader, avec un record au Japon, 11 changements de leader en 2008. Et en fait, on n'a pas eu une seule course où il n'y a pas eu de changement de leader. Deuxième course, deuxième saison très très disputée également, c'est 2003 avec une moyenne de 5,5 où la saison effectivement était disputée jusqu'à la fin avec Schumi, Kimi et Montoya notamment. Et il y a uniquement en France cette année 2003 où Ralf Schumacher a dominé du début à la fin. Et puis troisième sur le podium, là c'est une surprise aussi avec une moyenne de 4,89, c'est 2004. 2004, malgré la domination de Schumi et de sa Ferrari, eh bien, on avait des courses avec de nombreux changements de leader, donc c'est un peu une surprise.
Donc en effet, c'est vrai que c'est assez intéressant. Là, on disait tout à l'heure sur les saisons chiantes que on s'étonnait qu'il n'y ait pas Ferrari, et là, là il y a Ferrari dans les saisons intéressantes, c'est assez surprenant.
En plus 2004, sur toutes les années de domination, c'est une des plus fortes, quoi.
Donc. Oui, voilà. Donc on va peut-être passer maintenant si c'est pas les saisons. Ah, ça peut peut-être être les pistes parce qu'on est quand même sur une piste avec un lourd passif.
Maintenant, on va parler des circuits, les pistes sur lesquelles on a tendance plutôt à s'ennuyer et au contraire les autres sur lesquelles on a de la lutte aux avant-postes puisqu'on a droit à beaucoup de changement de leader durant les courses. Donc pour faire ce classement, donc j'ai repris toujours sur les 20 dernières années, mais les pistes qui sont quand même suffisamment représentées et j'ai exclu parfois les années pour lesquelles on avait des modifications de circuit. Typiquement en Allemagne, pour le nouveau Hockenheim, je suis reparti donc uniquement de 2002. J'ai éliminé donc tout ce qui était avant sur le long tracé qui était en forêt. Pareil pour l'Australie, c'est uniquement depuis 1996 à Melbourne, et puis en France uniquement depuis 1991 à Manicourt. Pour le Japon, donc j'ai parlé exclusivement de Suzuka. Donc au total, on a 18 pistes. Pour lesquels il y a le moins d'animation en tête de la course, pour lesquels on a le moins de changements de leader. Donc c'est un peu sans surprise que l'on a Monaco avec une moyenne de 2,85 changements de leader par course. On le sait, Monaco, c'est pas facile de se dépasser, donc ça explique un peu cela. Et bon, c'est pas vraiment une surprise, mais bon. C'est Monaco. En deuxième position avec une moyenne de 3, on retrouve la Hongrie. Donc même si Dino aime ce circuit, c'est quand même un endroit où il est difficile de doubler. C'est d'ailleurs, on le compare souvent à Monaco. Donc là encore, peu de changements de leader sur ce circuit. En troisième position, San Marin avec une moyenne de 3,35. Et comme en témoignent donc les fins de course de 2005 et 2006 avec les luttes entre Alonso et Schumacher et dans le sens inversé l'année suivante, là encore c'est pas toujours facile de dépasser, donc les leaders en tête de la course ne changent pas beaucoup. En quatrième position, donc on a avec une moyenne de 3,53 le Canada, je suis assez surpris du résultat, car j'avais l'impression qu'on avait quand même des courses assez disputées, donc c'est assez surprenant. Néanmoins, si on prend uniquement les années 2000, on a une moyenne beaucoup plus grande, avec 4,5 changements de leader par course, tandis que tout ce qui est années 90, on est plus bas que Monaco, avec une moyenne de 2,6. Donc ça a tendance à s'améliorer sur le circuit du Canada, des courses plus disputées sur la tête de la course. Et enfin, bah, on s'en doutait un peu, comme quoi notre perception n'était pas si mauvaise que ça. Au cinquième rang donc, de ce classement, on retrouve Barcelone.
Barcelona.
Et on s'en doutait, une moyenne de 3,81.
Oui, en effet, la Enzo, on se doutait que Barcelone est trouvé. Par contre, c'est vrai que c'est étonnant que ce soit finalement que cinquième derrière.
Oui.
Notamment, c'est vrai qu'il a raison sur le Canada. Hein, c'est assez surprenant parce qu'on a généralement plutôt le réflexe de penser que les courses sont assez disputées là-bas.
Et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à des pistes, par exemple, comme Monza ou Canada, tu sais, qui sont très rapides.
Ouais.
Et forcément, comme elles sont très rapides, il y a moins de dépassements. C'est un peu la vérité pour le Canada. Le Monza, par exemple, on ne le voit pas. Alors que c'est vrai que c'est pas non plus, a priori, la piste, il y a plus de déplacements, mais il n'y est pas.
Et donc maintenant, je pense qu'on va passer aux pistes les moins intéressantes, enfin, les pistes les plus intéressantes.
Alors, au contraire, quelles sont les courses où on a, très souvent de la bataille aux avant-postes, des changements de leader, donc, déjà, une hors catégorie, parce qu'on a une classification que sur, du moins une statistique sur deux années, c'est Fuji avec 8,50 puisque on a eu énormément de changements de leader, mais faut dire que ces courses ont été mouvementées, souvent sous la pluie, donc ça explique. Donc bon, je l'exclus de ce classement. Ouais. Le circuit de Fuji n'est pas dans les 18 pistes représentées, mais je voulais le souligner quand même. 8,5 c'est moyenne. Alors, le circuit pour lequel on a le plus de changements de leader donc sur les 20 dernières années. Alors, la statistique est plus courte parce qu'elle n'est que sur 7 années, en fait, puisque c'est un circuit relativement récent. Et bah, cette année, c'était pas très représentatif, puisqu'il s'agit de Bahreïn. Bahreïn avec une moyenne de 5,57 dépassements. Pardon, pas dépassements, mais changements de leader en tête de la course. Bon, faut savoir que cette année, il n'y en a eu que deux, Vettel et Alonso. En deuxième position, on a le nouveau circuit de Hockenheim, avec une moyenne de 5,43 changements de leader par course, tandis que sur l'ancien circuit, la moyenne était à 3, tout rond, comme quoi les modifications ont fait du bien sur ce circuit. Alors, bon, on ne va plus au fin fond de la forêt par ces grandes lignes droites. Et bon, le circuit de Hockenheim a réussi sa reconversion de ce côté-là. Troisième sur ce classement, la Malaisie avec 5,17 de moyenne. Effectivement, on a souvent des courses disputées, des changements de leader en tête. Bon, il arrive aussi souvent qu'il y ait des conditions climatiques qui soient propices à ce genre de changement, de l'apparition de la pluie, etc. Et puis en quatrième position, on a Indianapolis avec une moyenne de 5 tours ronds. Puis derrière, seulement derrière, on a Spa, la Chine, la Turquie, Interlagos, Melbourne, Manicourt et Monza. Et puis assez surprenant, bien qu'on ait souvent des courses belles et disputées, eh bien on a Suzuka qui est seulement 13e de ce classement et Silverstone 14e. Voilà, donc cette minute historique est terminée. J'espère qu'elle vous a plu malgré le fait qu'elle soit un petit peu moins interactive que d'habitude. À cause de son enregistrement de manière différée. Bonne fin du SAV et à très bientôt.
C'était très bien, Enzo.
C'était très bien. Alors, on va revenir un petit peu à la course après la minute historique avec les faits marquants et avec le magnifique sondage qu'on a eu la semaine dernière. Avec, je constate, 39 votants quand même.
Oui.
Il y en a un, il va se faire gauler. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Chine ? Alors, pour une fois, j'ai envie de faire dans l'autre sens. C'est vrai que j'ai on remonte.
Oui.
Mais là, non, c'est trop beau. Et donc, en tête, vous avez choisi à 69%, 27 votes. Très belle victoire. Le dépassement d'Alonso sur Massa à l'entrée des stands. Donc, c'était le choix des deux, justement.
Oh.
deuxième place, donc l'incident Vettel-Hamilton dans les stands, 28% 11 votes. Mais. Souvenez-vous, Dino, dans un élan de je ne sais pas quoi répondre. Vous avez
ce magnifique... J'ai envie d'être dernier pour avoir le premier choix.
Voilà, nous a répondu l'absence de soleil. Alors, qu'il soit dernier, c'est pas une surprise. Non, parce qu'on s'en doutait. Non, ce qui est plus surprenant, c'est qu'il est dernier, non pas avec 0%, mais avec 3%.
Et vote.
C'est
pas le mien.
Qui n'est pas le vote de Dino. C'est-à-dire quand même que le type qui a répondu, il voulait qu'on le cite. Il voulait qu'on parle de lui dans l'émission.
Il voulait que je le frappe. Moi, je voulais avoir le zéro. J'ai même pas voté pour moi. Je voulais avoir le zéro. Et grâce à un certain Globen.
Globen.
Qui n'aura plus de magnette de tout le sa vie. Déjà parce qu'il en gagne déjà beaucoup trop.
C'est déjà bien, il a gagné qu'une fois depuis
voilà.
Deux saisons.
Maintenant, j'ai l'air ridicule. Hein? Donc c'est voilà, faut penser à moi. J'ai l'air ridicule, même si je suis dernier. Mais voilà, je suis dernier avec une réponse pas crédible qui a été crédibilisée par Globen. Hein Globen.
Ouais, elle n'est pas beaucoup plus crédible. Hein,
oui, mais elle est légèrement crédibilisée. Alors qu'à zéro, tout le monde dit ouais non mais ça il l'avait dit, c'était une connerie, etc. Eh ben non, là ça dit il y a quelqu'un qui pense comme ça. Donc alors, c'est vrai que par contre vous nous avez pas envoyé de fait marquant de la course vous.
Non ils se sont concentrés sur les voilà. Top 10.
Oh c'est très bien, ça nous laisse de la place. Est-ce que Enzo en a envoyé un seulement pour profiter de sa
victoire? Il en a envoyé.
Pour profiter de sa victoire. J'espère que c'est pas le mien. Hein.
Bah déjà tu vas choisir le tien. Tu vas donner le tien.
Alors, ouais, ah oui. Non, mais ça se trouve, il en a qu'un seul et moi, je vais me faire avoir.
Attends, c'est ton plan machiavélique pour avoir le premier show en Espagne.
Non, je noterai, bien évidemment, je ne peux que noter la... J'ai pas envie de dire la lutte, mais la résistance de Schumi sur Button.
Eh bien, moi, je vais dire le crash d'Hamilton. Après sa très belle course. Et donc Enzo, comme fait Marquand, il nous indique la correction infligée par les Red Bull aux autres équipes en qualif.
Il a le don de faire des trucs longs, lui.
C'est pas Ismaner.
Presque, quand même.
Parce que maintenant, Ismaner est quand même notre référence en termes de longueur. Hein. Ça, faut bien être clair. Le synonyme de long, c'est fait par Ismaner. Voilà. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, pour répondre au sondage, c'est sur le site www.savf1.fr. Parce que nous, on a fait une adresse courte, c'est-à-dire donc une adresse qui n'a pas été faite par Ismaël.
Hey, le running gag. Ismaël, il va plus vouloir nous voir.
Donc, après l'effet marquant, les roulés au passe-travers... Si on devait traduire littéralement drive-thru.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
À noter donc que Enzo nous a aussi envoyé, enfin m'a aussi envoyé un drive-thru.
Ouais, moi j'ai droit à rien, moi.
Voilà, donc c'était contre les chicanes mobiles que sont les nouvelles écuries.
C'est pas le mien, ça va.
Voilà, cela ne m'avait pas choqué lors des premières courses. Alors, exactement, il a mis « cela ne m'avait pas choqué lors des premières courses, mais là, point d'exclamation. »
Mais là ?
Là, donc, mais là, ça m'a choqué, voilà. Parce que c'est vrai que les chicanes ont vraiment été très lentes. Hein,
ah là, ouais.
Voilà, et phrase d'ouverture, « qu'est-ce que ça va être à Monaco ?» 3 points d'exclamation. Ça va être terrible. D'ailleurs, ils ont refusé hein, le fait, oui, l'idée de faire 2 Q1. Ça va être chouette.
Bon, en même temps, les grosses équipes, elles font un tour. Elles se mettent d'accord pour se partager les chronos. Elles font un tour et puis c'est bon.
Alors, Dino.
Et bien, mon drive-through, il est à l'attention de ces gens super bien intentionnés qui sont contre la pub pour le tabac. Sur cette polémique qui est apparue, qui m'a pris par surprise. Hein. Je n'étais pas chez moi cette semaine-là. J'étais absent pendant 5 jours. je reviens et que vois-je sur mes sites de F1 préférés, qu'on attaque de toutes parts, enfin d'une part du côté des anti-tabac, Ferrari sur ce scoop de l'année, ce code-barre qui serait un message subliminal.
Mais il y a des gens qui ont découvert que le code-barre était rattaché à Malboro.
Oui, voilà, non mais on a toujours su que c'était rattaché. Alors, et je pourrais dire énormément de choses. C'est très bien d'avoir des gens qui défendent, qui sont contre le tabac. Et qui... Le problème, c'est que là, on a quand même des gens qui se battent pour quelque chose, sur une bataille qui a déjà été gagnée. Faut être honnête, les seuls qui savent que le code-barre c'était une référence à Marlboro, ce sont les gens un peu invertis de la F1. Et je crains malheureusement que ce regain de l'affaire du code-barre, etc., aboutisse finalement à une plus grande visibilité de Marlboro et à une augmentation de sa valeur. Ce que je trouve dommage, c'est que plutôt que de se concentrer sur ce problème du code-barre, on n'avait pas dit tout simplement « Oui, bon alors c'est bien, on a annulé le tabac, etc. » Mais regardez Ferrari, ils ont un code-barre qui cache Marlboro. Au-delà du simple fait que c'est de la publicité subliminale, je trouve l'argument quand même un peu fallacieux, mais bon, peu importe. Dire derrière, c'est la preuve que cette écurie, elle est encore financée à hauteur de 100 millions, parce que c'est un contrat d'un milliard sur 10 ans, 100 millions par saison, par l'industrie du tabac. Et que là, faut lutter contre. Faut que Ferrari trouve de l'argent ailleurs. J'aurais totalement soutenu cette initiative et j'aurais totalement soutenu cette polémique. Et là, la polémique sur le code-barre, je la soutiens pas, d'autant que je trouve la réponse de Ferrari très intelligente, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé le code-barre et ils ont remplacé ça par un magnifique rectangle qui ne fait que mettre en évidence une zone que plus personne n'a remarqué ces dernières années.
Ils n'ont enlevé le code-barre que de la voiture, mais sur les murs, la promo, tout ce que vous voulez, le code-barre reste. Ouais. Hein. C'est vraiment que sur la voiture, ce qui fait qu'on ne voit que ça.
Moi, je trouve qu'il y a effectivement une opportunité de dire voilà, on en finit. C'était une étape nécessaire de dire on en finit avec l'argent du tabac dans la F1 et globalement dans le sport. Et voilà, je trouve que finalement c'est un pétard mouillé parce qu'on développe énormément d'énergie et de moyens de communication pour lutter contre quelque chose qui est déjà éliminé, c'est-à-dire effacer le nom des marques, ce qui existe déjà depuis des années. Il y a vraiment des gens avertis qui savent que le code barre c'est Marlboro, quoi. Donc voilà, c'était mon drive-thru contre ces polémiques inutiles parce qu'elles pourraient être plus productives finalement, bien menées.
Alors mon drive-thru, alors c'est un drive-thru simple qui s'est couplé en un deuxième avec un deuxième plus petit.
Et
ce week-end,
c'est un drive-thru poupérus. Matrioshka.
Alors, il faut poupérer. C'est contre Ferrari et son F-Duck. Donc, Ferrari a mis en place son drive-thru qu'ils ont il était déjà en test en Chine, ils l'ont utilisé à Barcelone. Et qu'est-ce qu'on a découvert sur les vues intérieures? C'est que contrairement à McLaren qui a un F-Duck qui se bouche, entre guillemets, avec le genou, celui-ci se bouche avec la main. Et, au stupeur, on a eu comme image, donc, utilisation du F-Duck et utilisation, en fait, modification de l'équipe de freinage, sachant que ce n'est pas une commande sur le volant, mais une petite manette. C'est une poignée. Et donc, on a vu Alonso rouler à 300 sans les mains sur le volant.
Moi, je dis, on ferait imposer ça au pilote, hein, 10 secondes par tour et refaire les mains du volant.
Alors, on est d'accord, Alonso et même Massa sont des grands pilotes. On est bien d'accord qu'une F1, c'est réglé aux petits oignons. Si tu laisses le volant droit, la voiture va aller droit, hein, bien sûr. Mais c'est pas responsable de la part d'une écurie de F1 de montrer à des millions de gens donc qu'on peut rouler à plus de 300 sans mettre ne serait-ce qu'une seule main sur le volant. Alors l'argument chez Ferrari dit « Non mais vous savez, ils utilisent déjà plein de systèmes différents. » Oui, sauf que à part l'équilibre de freinage, tout est sur le volant. Donc même quand il modifie les mélanges d'essence, tout ce que vous voulez, il y a toujours au moins une main sur le volant. Quand on pense que la FIA fait des campagnes à travers le monde pour la sécurité routière...
Des pieds et des mains.
Ouais, des pieds et des mains, oui, on peut le dire. Dans les faits, il y a peu de chance, enfin je l'espère, il y a peu de chance qu'il y ait de problèmes, mais on ne sait jamais. Oui, tu veux dire quelque chose?
Ça a quand même précipité la mort du F-Duct d'ici la fin de saison.
Alors, c'est mon deuxième, c'est la petite poupée russe, c'est contre la FOTA, qui a donc, alors, il y a pas que ça, mais qu'ils ont profité en fait de ça pour dire qu'un des problèmes de sécurité, c'était un des problèmes du F-Duck, c'était la sécurité. En prenant comme exemple la Ferrari, ça fait un peu prétexte. Est-ce qu'on n'est pas dans le cas classique, voilà, il y a des équipes qui ont pas réussi à le mettre, donc on l'interdit. C'est quand même super dommage parce que le F-Duck, et il y a une des contributions, ça doit être X-Men Air comme d'habitude, qui en parle. C'est vrai que c'est un système qui est vachement bien pour la F1 parce que, comme on l'a dit au début, c'est simple mais génial. Ça demande pas un développement si gigantesque que ça. C'est pas de l'électronique, c'est de l'aéro, mais c'est...
Non, mais disons que c'est vrai qu'il y a deux arguments qui sont avancés. C'est d'abord côté sécurité. Là, c'est un argument un peu fallacieux, voilà. Après, oui. Il y a aussi un argument pour les petites écuries qui disent, nous, oui. Si on veut survivre la saison prochaine, on a déjà un tel retard qu'il va falloir qu'on comble. Si on veut survivre, on peut pas non plus rajouter la charge du F-Duct, développer une voiture autour du F-Duct. Ça demande un... Même si c'est pas complexe en soi, même s'il n'y a pas d'électronique, ou c'est pas une révolution telle que le KERS, etc., non. Ça demande quand même des moyens. Bien évidemment que Ferrari, etc., vont développer énormément de moyens cette saison pour l'avoir le plus vite possible. Les petites équipes, elles, vont développer moins de moyens. Mais c'est vrai que quand on compare Ferrari qui a un budget autour de 250 à 300 millions et qu'on compare HRT qui a 50 millions de budget, le programme et le choix d'argent, il est là à faire. Donc c'est vrai que c'est dommage de se passer d'une telle innovation qui est intéressante.
On va passer au concours.
Yes, au concours Top Opposition.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con, quoique.
Alors, la question était, quel était le point commun lors du Grand Prix de Chine 2004 entre Jarno Trulli, Timo Glock et Ralf Schumacher, et le point commun était Shinji
qu'il n'avait pas roulé la course d'avant.
Voilà, il revenait en F1.
Voilà.
Alors, Ralf Schumacher, parce qu'il revenait suite à son accident, je crois, d'Indianapolis, où il avait été immobilisé pendant une course, remplacé par Pizzonia. Timo Glock, qui venait de remplacer Giorgio Pantano, je crois, chez Jordan. Et Jarno Trulli, qui s'était fait renvoyer de Renault et qui avait été remplacé par Villeneuve. Je me suis trompé dans ma question, c'est Villeneuve qui partage le point commun. Donc voilà. Alors, nous avons eu à cette magnifique question, pas du tout difficile. Alors, nous avons eu trois réponses, mais une seule de bonne.
Ah.
Voilà. Et je tiens d'abord à m'excuser auprès de Sato Kamikaze, dont j'ai oublié la question la dernière fois. Donc, la prochaine fois que Sato répondra à la question, il aura le droit de poser deux questions. Je proposerai donc deux questions. Il aura donc deux fois plus de chances d'être tiré au sort pendant le jeu. Voilà. Donc, nous avons... Alors, la réponse du... Je vais proposer la question du gagnant, si elle te convient ou
pas. Bah oui.
Puis après, on verra... Enfin, pas du gagnant, mais de celui qui a répondu. Après, on verra si elle te convient pas. On pourra peut-être choisir dans les autres.
Mais la personne sera quand même gagnante parce qu'elle a donné la bonne réponse.
Alors la question proposée par le gagnant qui est, je peux le dire, hein, c'est Buchor, hein, qui a posé, qui est le seul à avoir répondu à la question. En 2008, Massa finit deuxième derrière Kimi Raikkonen. Ce faisant, il établit un record du circuit de Catalunya pour une course de F1. Lequel ?
D'accord. Donc dis-moi les deux autres questions quand même.
Alors les deux autres questions, nous avons, alors je peux dire les noms puisqu'ils ne gagneront pas. Donc nous avons la question de Maël, qui n'a pas donné de bonne réponse, mais on va quand même écouter sa question. Quelle fut la particularité de l'arrivée du Grand Prix d'Espagne 1986?
Ça c'est sympa.
Et nous avons la question de Globen, qui pareil n'a pas su trouver la réponse, mais nous a quand même envoyé une question. Pour quelle raison Christian Klien, qui a été engagé par HRT ce week-end, a-t-il failli ne pas pouvoir piloter lors des essais du Grand Prix d'Espagne? Alors Shinji, toi qui connais les réponses, parce que tu es fort et que tu connais bien la F1, et qu'on a coupé au montage.
Écoute, oui. Écoute, comme on aime bien l'histoire, et comme on aime bien les filles...
Ouais.
J'ai envie de choisir la question de Maël.
Donc c'est Buchor qui gagne, mais vous allez avoir le droit de répondre à la question de Maël, ce qui fait que Buchor a le droit de répondre.
Voilà.
C'est une double récompense d'ailleurs pour Buchor parce que il gagne. Bon, sa réponse n'est pas sa question n'est pas sélectionnée. Il gagne, donc il gagne un petit ticket parce que à la fin de la saison, on fera un tirage au sort. Il y aura un ticket par émission. Voilà. Donc il gagne un ticket et en plus il peut peut-être en gagner un deuxième la semaine prochaine. T'as tiré le gros lot là, Buchor. Donc Buchor qui en est à son deuxième bulletin dépêchez-vous les autres, parce que sinon Bucher il va avoir beaucoup de chance pour lui. Donc la question de Maël, c'est quelle fut la particularité de l'arrivée du Grand Prix d'Espagne 1986? Donc vous allez sur le site du SAV rubrique contact, vous choisissez bien concours top position pour pas que je me paume, puisque je reçois beaucoup de mails en ce moment sur le SAV de la F1. Et donc je répète la question, quelle fut la particularité de l'arrivée du Grand Prix d'Espagne 1986? Un indice, un rapport entre le premier et le deuxième de la course.
Bon, on va finir cette émission avec ce qui va se passer déjà demain.
Oui. Ce qui se passe peut-être en ce moment pour vous, vous avez peut-être même les premiers résultats.
J'ai même envie de dire ce qui va se passer aujourd'hui. Le Grand Prix de Monaco. Alors par contre, Enzo n'a pas donné de prono. Hein.
Oh, on va pouvoir deviner, Enzo.
Moi, écoute, je pronostique la safety car.
Ah, c'est tentant.
C'est tentant. Non, je, plus sérieusement, je verrais bien Alonso. Tiens, pourquoi pas. Même si ça va être dur en qualif, parce que beaucoup de choses vont jouer en qualif.
Là, faudra compter sur la fiabilité.
Ah, faut tout compter sur, faut être rapide en qualif et fiable, hein, ça, y a pas photo. Mais je dis aussi, safety car, les gars. Non, mais sérieusement, avec les voitures plus lentes, si en plus, et c'est plus que probable, il pleut, va y avoir de la tôle froissée, hein. Ça va être Iron Man 2, hein.
Oui, alors on vous conseille.
ceux qui ont vu le film comprendront tout de suite.
moi, qui dirais-je Allez, parce que ça serait pas courageux de dire une Red Bull. Je dirais Lewis Hamilton, parce qu'il est fort à Monaco, ah, avec la Renault la McLaren est pas mal.
Oui, et puis McLaren a toujours une grande habitude de bons résultats, même si là, pour le coup, le F-Duc sera complètement inutile. On arrive à la fin de l'émission. Alors, dans les remerciements, je précise parce que la dernière émission, on les a oubliés et on a eu des commentaires. Donc, je salue Globen et Sato Kamikaze pour leur tour Mécatech, qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs pour le Grand Prix d'Espagne, ouais, mais c'est pas grave.
Eh ben, on les remercie pas alors.
Non, on les remercie, hein, puisque eux roulent au moins sur la piste, n'est-ce pas?
Ça, c'est avec leur belle... Moi, c'est mes doigts là qui sont assurés. Tu les vois, mes doigts qui sont assurés, 5 kilos chacun.
C'est pas les pouces. Donc, on leur remercie avec leur belle voiture sponsorisée par le SAV de la F1.
Et on attend vivement une toute nouvelle livrée, la livrée Mécatech.
Voilà. En plus, Monaco, c'est toujours génial à voir. Donc,
voilà.
Vivement la prochaine course.
On peut aussi remercier Enzo. Voilà, ouais. On n'a pas l'habitude de faire.
Il a pas forcément eu le temps, faut le dire. Et voilà, il a quand même, comme on l'a dit pour rire, mais il a eu le courage quand même de voir la course,
voilà,
de nous laisser voilà ses impressions pour qu'il soit quand même présent pendant cette émission. Et comme d'habitude, hein, les remerciements habituels, c'est-à-dire qu'on vous remercie vous, on souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, comme d'habitude, en fonction de l'heure que vous nous écoutez. Et n'oubliez pas, attention aux photos.
Allez, salut.
Salut à tous.